Bon, et ben, revoici. On est à nouveau dimanche. On est à nouveau tous ensemble.
Je crois que ce générique n'aura jamais été aussi adapté.
Ouais, ouais, surtout. Franchement, aujourd'hui. Bon, attends, laisse-moi lancer un petit peu les choses. Laisse-moi avoir du rebond avec toi. Voilà. Parce que ce soir, c'est Dimanche Dépression, c'est Guillaume. Et je suis avec. Bah, cette fois-ci, je vais changer. Parce que d'habitude, je prends dans le sens de gauche à droite. Et je propose de présenter la magnifique qui revient une deuxième fois. Bonjour Marie.
Bonjour, bonjour.
Ensuite, nous avons. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous sommes quatre et nous avons deux filles. Nous réussissons ça parce que jusque depuis le premier épisode, on a toujours une fille mais jamais deux. Et oui, parce que nous avons la sublime, l'incroyable, celle qui a la voix si loin du micro et pourtant elle est tellement là, tellement présente. Salut Marine.
Salut Bat.
Et bah oui, bah alors lui, je ne le présente plus parce qu'il est un peu notre flegme, mais il est un peu. Notre, je sais pas comment vous dire, ce style, cette élégance et en même temps ce look de punk à chien qui lui va si bien, à savoir Laurent. Salut Laurent.
Salut.
Et ce soir, Laurent, de quoi allons-nous parler ?
On va parler de la mort. J'espère que vous êtes prêts.
Exactement, nous allons parler de la mort. Alors, malgré tout, avant de commencer, en très rapide, il se trouve que nous avons discuté tous ensemble cette semaine et nous avons déduit que nous allions changer un peu le format de l'émission. Tout simplement parce qu'on s'est dit qu'il y avait des sujets qui allaient être des sujets massifs et que ces sujets massifs, on ne pouvait pas les traiter de façon comme dans un dimanche d'expression standard qui dure 1h10, mais qu'on avait besoin peut-être d'avoir plusieurs points de vue. Et donc, on a proposé de faire on s'est dit qu'on allait faire des grosses émissions. Et ce soir, pour la mort, on a décidé, cette semaine de la Toussaint, de faire une grosse émission. Donc, nous allons avoir quatre chroniques. Nous allons avoir une chronique de Marine, de Marie, de Laurent et de moi. C'est ça qui est magnifique. C'est Open Chronique. Et surtout, on a aussi une nouvelle séquence que nous allons vous faire découvrir là, juste après cette longue introduction qui est bien trop longue. Surtout, ce qu'on avait dit, qu'on essaierait de faire pas plus de 2 heures.
Plus c'est long, plus c'est bon.
Je pense que l'introduction, elle toute seule, va faire 2 heures.
Donc, nous allons nous lancer dans le vif du sujet. Vous qui êtes en live, vous n'avez pas de jingle, mais nous allons quand même le faire pour vous avec Laurent, avec la bouche, pour lancer le journal des mauvaises nouvelles. C'est parti, jingle.
On commence par les États-Unis. Antisémitisme. Un homme de 46 ans a tué 11 personnes dans une synagogue à Pittsburgh en hurlant « Tous les juifs doivent mourir ». Plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, rien de nouveau sous le soleil. Midterms election. Pour les élections de mi-mandat, Trump s'est livré à un discours particulièrement enflammé en Floride, mettant en garde les électeurs contre la violence des démocrates qui imposeront le socialisme et effaceront les frontières. Il a également défendu le savoir-faire ouvrier et l'aménagement esthétique du territoire en indiquant que les barbelés peuvent être une bien jolie chose quand ils sont bien posés.
Et je veux te dire, c'est passionnant que Trump dise ça. Il croit encore l'international communiste alors que même les communistes n'y croient plus.
C'est vrai. On passe au Moyen-Orient. La guerre au Yémen qui perdure depuis 2015 entre les rebelles houthistes et coalition menée par l'Arabie Saoudite a entraîné une situation de famine touchant 1,8 million d'enfants âgés de moins de 5 ans. Tout le monde s'en foutait jusqu'à l'apparition d'une photo d'une fillette âgée de 7 ans, squelettique, dans le New York Times le 26 octobre dernier. Elle est morte le 2 novembre de malnutrition.
Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle.
C'est ça ?
Vraiment, bonne ambiance.
Allez, Amérique latine, élection au Brésil. Jair Bolsonaro, président du Brésil, candidat d'extrême droite, a été élu avec plus de 55% des voix. Admirateur de la dictature militaire et surnommé le Trump des tropiques, il alimentera sans nul doute notre journal pour les 4 ans à venir. Climat maintenant. Un rapport britannique sur le respect des objectifs de l'accord de Paris indique que seulement 16 pays sur 195 ont développé des actions pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2100. Un certain nombre de pays européens, dont la France, n'ont pas pris de mesures concrètes à ce sujet et ces pays n'ont toujours pas établi d'objectifs. Un petit commentaire, non ?
Je pense que vraiment, c'est un bon ajout à l'émission, ce petit instant mauvaise
et
nouvelle.
Et c'est pas fini, hein, j'en
parce
ai
que
encore.
Ça pose bien l'ambiance. Mais alors, on te laisse finir.
Est-ce qu'il y a pire ou est-ce qu'on est...
Ah ben, il y a... Oui, ouais. Ouais, plus ou moins. Non, allez, je pense que le Yémen, c'était le pire quand même. Mais bon, finance, économie, la transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi en allègement de charges destiné aux entreprises pour sauvegarder l'emploi a été voté devant le Parlement. L'allègement passera de 20 milliards d'euros à 40 milliards d'euros, soit 12 fois le budget du ministère de l'Agriculture, 14 fois celui de la Culture et 4 fois celui de l'Écologie, le tout pour un effet contesté par de nombreux instituts. Toussaint, le journal Le Point réveille les morts avec en couverture cette semaine Nicolas Sarkozy pour un grand entretien. Visiblement, ils n'ont pas écouté notre émission de dimanche. Message personnel, j'attends toujours l'augmentation du pouvoir d'achat en France qui semble être annoncée pour le mois de novembre. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation la semaine prochaine. Et enfin, comme vous l'aurez peut-être remarqué, l'homme au peignoir n'est pas là ce soir. Nous le saluons chaleureusement et espérons qu'il passe, comme nous tous, un bon dimanche de merde. Voilà.
C'est vrai, parce que ce soir, Luc n'est pas là. Voilà, et nous le saluons. Voilà.
On espère que son peignoir se porte bien.
Oui. Luc, si tu nous regardes, tu n'es pas là et tu nous manques. Voilà. Et bah, moi, j'ai trouvé ça vachement bien.
Ouais, tu m'étonnes.
J'ai trouvé que ça manquait, tu vois. En plus, c'est une idée au départ de moi, donc les idées de moi, j'aime bien.
Finalement, voilà.
Moi,
ça
j'aime.
Ça apporte un peu de fun, j'aime bien aussi.
Et comme moi, je m'aime bien, à vrai dire. Bon, bref, façon, c'était le moment égomaniaque.
Oui, mais c'est moi qui l'ai écrite quand même.
Et c'était vachement bien fait. Mais je te l'ai déjà dit, tu étais un bon ajout à cette équipe. Nous sommes ravis que tu sois là. Eh bien, sur ce, nous allons lancer des chiffres, parce que nous allons désormais aborder le vrai sujet de cette semaine, à savoir la mort. Sur ce, jingle. Et donc, nous allons aborder les chiffres. D'abord, la mort, qu'est-ce que c'est ? Alors, selon Wikipédia, parce que oui, je ne suis pas allé chercher bien loin pour savoir ce que c'est que la mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Alors, en d'autres mots, parce qu'en gros, l'article Wikipédia précise bien, on déclare mort un organisme vivant qui commence à se décomposer, tout simplement parce que les processus vitaux ne sont plus à l'œuvre. En gros, quand on crève, le cœur s'arrête, etc. Donc les chairs sont plus irriguées, on se nécrose et voilà. C'est pour ça que ça semble plus intelligent de définir la mort comme le début de nécrose. Pour une cellule, c'est quand sa membrane est brisée. Ok. Pour info, sachez qu'une cellule, j'ai découvert ça en lisant l'article Wikipédia, peut mourir de vieillesse. Le fait qu'elle se divise laisse en fait toujours une cellule qui est plus blessée que l'autre. Oula, j'ai du mal ce soir. Au bout d'un certain nombre de blessures, elle ne cesse de se diviser et décède. Alors, un titre d'info, comme ça, je lâche un chiffre. 108 milliards, c'est le nombre d'êtres humains décédés depuis l'existence de l'humanité. Le nombre de décès par an est de 59 millions par décès. J'ai trouvé que 108 milliards, ça faisait pas beaucoup en réalité. Enfin bon, voilà. Pour la statistique en France, donc tous les chiffres que je vais citer...
C'est 2 par seconde, je crois.
Dans le monde ?
Je ne sais pas si ça fait ça, mais voilà.
Alors, tous les chiffres que je vais citer, c'est des chiffres INSEE. Donc en France, en 2017, il y a eu environ un peu plus de 603 000 décès en 2017, c'est-à-dire 929 décès pour 100 000 habitants. Pour donner une idée de ce que ça représente, pour Dijon qui fait 150 000 habitants, ça veut dire qu'il y a eu à peu près 1350 décès cette année. De quoi a-t-on le plus de chances de mourir ? Alors, je vous propose très rapidement de vous poser la question. À votre avis, de quoi meurt-on le plus en France ? Alors ?
Du cancer ?
Eh bien oui, c'est la première réponse !
Ça me semblait trop facile que je vous dise non, c'est pas ça.
Alors,
c'était chaud.
C'est pas ça.
En réalité, c'est 27% le cancer. Donc, c'est pratiquement un tiers des décès. Ça représente 147 500 morts. Ensuite, la deuxième cause, c'est les maladies cardiovasculaires. En gros, c'est les AVC, les crises cardiaques. Ça, c'est 26%. Ça représente 140 000 morts. D'ailleurs, pour info, le cancer qui tue le plus, c'est le cancer du poumon. Le cancer du sein est le troisième. Voilà. À titre d'indication, le tabac et donc le fait d'être une femme.
C'est moche.
D'être
une femme. C'est quoi le deuxième du coup
Je sais plus le deuxième, c'est un truc genre le colon, un truc comme ça. Ouais, je pourrais plus te dire, mais je me souviens qu'en fait j'étais étonné, je pensais que le cancer du sein était plutôt deuxième, que, enfin plutôt plus haut dans le... Voilà. La troisième raison, c'est la drogue, c'est 17%. Et dans la drogue, on ajoute le tabagisme et l'alcool, qui d'ailleurs c'est les deux principales raisons de décès liées aux drogues.
Ça représente... Ouais, mais si c'est lié à l'alcool, ça peut pas faire... Je veux dire, ça peut être avec un accident de voiture en plus ou pas?
Ah non, non, non. Là, on parle de, en gros, toutes les complications liées à l'alcool. Voilà. Ça représente 94 000 morts. L'obésité, ça représente 10%, 55 000 morts. Le diabète, 6%, 32 156 morts. Les maladies infectieuses. Alors, dans les maladies infectieuses, on a le sida, les hépatites divers, ça la grippe aussi, par exemple. Et ça représente 4,7 morts, soit 4,7% des morts, soit 2500 morts. Les accidents domestiques, en gros, quand tu t'électrocutes, etc., ça représente 3,1%, c'est 16 500 morts. Suicide, 2,4%, soit 12 900 morts. Les accidents de la route, en fait, c'est quasi rien, c'est 0,8%, c'est 4 800 morts par an. Et j'aime bien parce que je finis par ça. Mais c'est vrai, on oublie qu'on peut mourir aussi parce que quelqu'un vous tue. Donc l'homicide, en réalité, en France, c'est pas beaucoup de morts. C'est 0,14%, c'est-à-dire 743 morts. Rappelons que dans un ordre de grandeur, le cancer fait 147 500 morts, l'homicide, 743 morts. Donc je pense que les meurtriers, finalement, ils sont pas si efficaces que ça par rapport au cancer. Voilà.
L'efficacité.
Écoute,
si ça se trouve, c'est des meurtriers qui inoculent des cancers aux gens. Et comme ça, ça passe inaperçu.
En réalité, tu peux plus en vouloir à ton oncologue qu'à un serial killer. Ah bon, bref. Sans surprise, le taux de mortalité en France est de plus en plus fort à mesure qu'on vieillit. En même temps, logique. Hey. Il connaît un véritable infléchissement à partir de l'âge de 45 ans. Ceci étant dit, une petite news qui, moi, m'a épaté. En 2017... plus de 50% des personnes décédées avaient plus de 83 ans. Et quand on va jusqu'à 90 ans, c'est un quart des personnes qui sont mortes avaient plus de 90 ans. En fonction de notre genre, nous ne sommes pas égaux face à la mort. L'espérance de vie pour un homme né en 2017, c'est 79 ans. L'espérance de vie pour une femme née en 2017, c'est 83 ans. Ok, on n'est pas tous égaux. Vous avez tous nos intérêts. Alors... Petit détail très drôle, devine à votre avis dans quelle région est la ville qui a le plus fort taux de décès en France. Alors, une petite idée.
Une
région de
France.
Une
grande ville ?
Non, c'est une toute petite ville, mais
dans le nord.
Où se trouve-t-elle ? La vraie question, c'est où se trouve-t-elle ? Dans quelle région vous mettez cette ville ?
Je dirais plutôt du côté de la Bretagne.
Eh bien non. Allez, une proposition, Marie ?
Nord-Pas-de-Calais, pareil.
Mais j'ai déjà dit...
Eh bien, non. Et sachez,
la Guyane.
Sachez que c'est en Bourgogne-Franche-Comté.
Oh, c'est pas vrai. D'où le dimanche et pression.
Et c'est en Haute-Saône. C'est dans une petite ville qui s'appelle Neuré-lès-la-Demie. Voilà. Et c'est à deux pas de Vesoul. C'est en gros à 5 km de Vesoul.
C'est moche.
Et c'est la première ville de France.
Ça, voilà. Ça, c'est quand tu meurs d'ennui.
Et pour terminer, dans une bonne ambiance, voilà, je me disais, on a fait un petit quiz, c'est rigolo et tout ça. Donc, quand j'ai fait ma chronique, je me dis, et si on terminait sur une note bien grave ? Alors, nous allons parler des chiffres de la peine de mort dans le monde. Elle représente 993 exécutions dans 23 pays différents en 2017. C'est un recul de 4% par rapport à 2016. Donc, en fait, la peine de mort, c'est de moins en moins un truc qu'on fait en ce moment. C'est un peu moins.
C'est plus à la mode.
C'est un peu moins tendance, ouais, exactement. Les pays qui exécutent le plus sont la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak et le Pakistan.
Des grandes démocraties.
Exactement. Oui. En 2017, alors je te ferai remarquer, il y a l'Iran, je te ferai remarquer que l'Iran a des élections au suffrage universel. Ok.
Ok, mais tu n'as pas dit en plus, tu aurais pu dire les États-Unis, j'aurais dit pareil.
Non, les États-Unis en réalité, ils exécutent,
ils le font plus trop,
ils exécutent très très peu. En 2017, la Guinée et la Mongolie ont aboli la peine de mort. À ce jour, 106 pays ont aboli la peine de mort et en fait, il y en a un peu plus qui l'ont aboli pour un certain nombre de choses en fait, qui l'ont enlevé de leurs droits.
On reparlera des élections iraniennes plus tard en tête à tête parce que il y a des choses, les femmes n'avaient pas le droit de vote, etc. etc.
Si tu veux, on en discute. Je sens que ça va être un long débat. Et enfin, il faut savoir qu'actuellement, il y a 29 919 personnes qui sont dans les couloirs de la mort. Voilà. Donc, j'ai fait à peu près le tour des chiffres de la mort. Je m'étais dit qu'on n'en faisait pas trop, puisque justement, on avait passé à 4 chroniques. Donc, de souvenir, nous allons commencer, enfin, la chronique de Laurent. Nous allons mettre notre premier coupure musicale, et après, ce sera à notre viking préféré de se lancer sur ce première coupure. Et voilà, et donc fin de la première coupure. Écoute Laurent, de quoi vas-tu nous parler avant de mourir de la tuberculose encore cette semaine?
C'est une très bonne question, je vais tâcher parce que j'ai pas fini d'écrire ma chronique, mais c'est pas grave, je vais y aller en mode YOLO et tout va bien se passer. En tout cas, j'espère que je vais pas décéder de stress. Donc j'ai eu un peu de mal à écrire ma chronique, je dois l'avouer. C'est pas évident de trouver des sources fiables sur ce qu'est la mort, déjà que c'est pas évident de définir la vie. Du coup, pour pouvoir en parler, je suis allé me renseigner auprès des vrais experts en la matière, ceux qui savent de quoi ils parlent, qui peuvent parler de la mort comme s'ils y avaient été. Des fois, il paraît même que ça a été le cas. Je vais bien sûr parler des religions. La mort, ça peut se définir de plusieurs manières. Soit il s'agit d'un instant ponctuel, genre tu vis ta vie et boum, il y a la faucheuse qui passe et tu meurs. Soit il s'agit d'un état, c'est-à-dire le reste de ton existence après le passage de la faucheuse. Bon, on peut douter du fait que quand on cesse de vivre, on continue quand même d'exister, mais je vais pas évoquer la question parce que sinon j'ai rien à raconter, j'aime bien raconter des trucs en fait. Donc on va partir sur des histoires sympas à raconter, comme ça vous aurez l'air intelligent au repas de famille, en apprenant à vos potes ou votre famille qu'il existe une mythologie finnoise et que du coup les Finlandais n'ont pas été vikings, pas plus que les vikings n'étaient celtes.
Oui.
C'est important d'avoir l'air intelligent. Donc on va parler de la mort en tant qu'instant, instant ponctuel, de la mort en tant qu'état prolongé, de l'au-delà et des croyances liées aux morts. Globalement, l'existence d'une entité dédiée à provoquer la mort, par exemple la faucheuse, c'est une idée assez peu répandue. La plupart des paganismes s'accommodaient bien de l'idée d'une mort naturelle ou juste liée au concept de destinée, mais étant donné que le destin, ça s'écrit à la naissance, je ne vais pas en parler, vu que ça m'amènerait à parler de la vie. Et je ne parle pas de la vie, mais de la mort. D'ailleurs, quand j'ai fait ma recherche, j'ai été impressionné par le nombre de gens qui pensent parler de la mort, mais qui en fait parlent de la vie. J'imagine que ça sera votre cas, bien sûr.
Pas mon cas. Pas de spoiler, voilà.
Bref. Donc on peut couper les mythes des civilisations européennes en deux catégories, suivant si elles abritent des allégories de la mort instant ou non. Et encore, en faisant ça, on peut encore diviser entre les entités qui provoquent la mort ou les entités qui se contentent de personnifier une transition entre vie et mort. Dans le premier cas, les religions monothéistes, c'est les championnes. Dans le monde chrétien, par exemple, on a l'ange Muriel, qui plus tard était nommé Abaddon. C'est un nom qui claque, tu vois. Il s'appelle Abaddon, le destructeur, l'ange des abysses.
Mais c'est pour permettre aux Japonais de faire des animes super stylés.
Exactement. Parfois, il est dépeint comme un démon, voire comme l'antéchrist. Et parfois, c'est juste un serviteur de Dieu qui se contente de faire son job de moissonneur. Et il a bien sûr son homonyme musulman, qui s'appelle Azraïl, l'ange de la mort dont la fonction est de détacher l'âme du corps matériel et qui est ce qui correspond le plus à notre vision moderne de la faucheuse.
Azraël, c'est pas forcément musulman.
Non, je sais, il y a un Azraël chrétien, mais la fonction de faucheuse dans le monde musulman, c'est Azraël. Okay. Enfin, en tout cas, dans le monde musulman sunnite, j'imagine qu'il doit y avoir plein de petites chapelles, tout ça, mais je vais faire des généralisations à foison. Vous allez voir ça, ça va
parce
être génial.
Les couilles. Hein, ok.
Voilà. Et après, voilà. Donc, je disais Azraël, qui correspond le plus à notre vision moderne de la faucheuse. Et après, il y a encore des gens qui vont dire que l'islam, c'est un archaïsme. Enfin bref, chez le monothéisme, il y a aussi le quatrième cavalier de l'Apocalypse, la mort. Ils ne sont pas trop fait chier pour trouver le nom. Les autres étant la guerre, la famine, la peste, qui chevauche un cheval tantôt pâle, tantôt vert, en bref, couleur charogne. Super ambiance. Et sinon, c'est à peu près tout en ce qui concerne les entités létales. Il y en a aussi dans la mythologie finnoise, mais j'y reviendrai plus tard, ça vaut le coup, vous verrez. En revanche, en ce qui concerne les divinités liées à la simple idée de passage ou de guide des âmes, c'est un peu plus garni. Dans la mythologie nordique, par exemple, il y a les fameuses Valkyries, qui choisissent la moitié des morts au combat pour les emmener à la Valhalla. Et les autres morts, j'imagine, qui se démerdent pour trouver leur chemin.
Bon, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas dignes. Et non.
Mais j'y reviendrai, ça, sur la notion de dignité. Les autres morts, donc, ils se démerdent pour trouver leur chemin. Chez les Celtes, ils ont l'Ankou. C'est le dernier mort de l'année qui vient ramasser les âmes des morts dans sa chariote. D'ailleurs, en parlant de ça, bonne année. Parce que chez les Celtes, ça se passe à Samhain, donc c'est l'ancêtre d'Halloween. Donc c'est tout récent, là, ça fait 4 jours que c'est la nouvelle année. J'espère que vous êtes contents. L'Ankou a aussi sa contrepartie nautique avec la Baganoz. J'imagine que je prononce ça super bien. Donc c'est la barque de nuit qui, comme son nom l'indique, collecte les âmes des noyés pendant la nuit. Chez le Romain, il n'y a personne qui s'occupe du ramassage, pareil, ils se démerdent. Pourtant, il y a au moins 2 divinités qui personnifient la mort. Il y a l'Ua, à laquelle on dédie le trépas des ennemis, et le loot qu'on ramasse sur leur corps, parce que le pillage, c'est assez important. Et la plus connue, Morse, dont le nom est très original, encore une fois, et qui, oui, quand je dis Morse, vous ne représentez pas un truc avec des grandes bandes.
Ah, mais j'imagine avec la langue en plus, en Morse.
J'imagine un truc qui nuit, ouais, je sais pas.
Donc Morse, dont le nom est très original et qui démontre à elle toute seule que le paganisme romain, c'est pas un copier-coller du paganisme hellénique. Après, il y a la catégorie des dieux qui représente la mort en tant qu'état, comme une continuité ou une finalité de la vie. Genre, généralement, la notion afférente, c'est celle d'un roi sur le peuple des morts. Mais c'est pas toujours un domaine qu'il pratique exclusivement. Par exemple, il y a la déesse Hel du panthéon nordique. Sa seule fonction, c'est de régner sur le domaine qui porte son nom, qui a donné le terme anglais pour « enfer ». En revanche, il ne s'agit pas forcément de l'enfer au sens chrétien du terme, même s'il y a d'autres au-delà chez les Nordiques, mais j'y reviendrai. On dit de elle qu'elle est tantôt accueillante, tantôt sévère, et que son visage est à moitié magnifique, à moitié noir, c'est-à-dire mort. Oui, parce qu'en Scandinavie, il fait froid, donc les cadavres, ils pourrissent pas, ils gèlent et ils noircissent.
Ils sont pas plus bleus comme dans Game of Thrones ?
Non, ils noircissent. Ils ont les extrémités des doigts tout noirs. Et
mais
puis,
s'il fait froid, pourquoi ils deviennent noirs ?
Parce que c'est la nécrose. C'est la nécrose. Mais toi, toi, t'as jamais vu un corps nécrosé ? Tu sais pas ce que c'est qu'un escarre au stade 4 ? Tu auras des trucs.
Je crois que je veux pas forcément savoir.
Tape ça dans Google, tu vas découvrir des trucs. Hein. Vraiment, tu vas passer une bonne soirée.
Mais je pense que j'y passerai un jour à cette phase-là.
Écoute, on se fait une petite soirée, on en reparle. Oui, non.
Chez les voisins des Vikings, en Finlande, la mort est beaucoup moins sexy. Il est temps que je vous parle de la délicieuse famille qui compose le panthéon infernal de la mythologie finnoise. Tuoni et Tuonetar, qui sont respectivement le roi et la reine du royaume des morts. Ils ont 5 enfants. Alors là, je vais encore une fois me démarquer par ma prononciation d'exception. Kipututto. Petite fille de la douleur, c'est la traduction exacte de son nom. C'est la déesse des maladies au stade terminal. Loviatar.
Ça c'est génial. Qui a été remplacée dans le folklore international par chimiothérapie.
Sinon il y a aussi Loviatar, qui est la mère des 9 maladies. Kalma, dont le nom peut se traduire par « odeur de charogne », qui est la déesse de la mort, de la décadence et des cimetières. Kivutar, qui préside au culte de la douleur et de la souffrance. Et ça doit être la seule qui est assez sympa, vu qu'on l'invoque pour guérir les maladies graves. Et Vamatar, qui est carrément déesse du mal et du malheur. Voilà, on pose les choses telles qu'elles devraient l'être partout. Ensuite, sinon, on peut parler encore une fois de la multitude de dieux qui est présente dans la mythologie romaine, qui se démarque par le fait que la mythologie romaine, c'est assez particulier parce qu'ils adoptent des dieux de plein de mythologies variées. Il y a le Dispater, par exemple, qui a une récupération du dieu des ancêtres des Gaulois. Soukelus. Et donc, dans la mythologie romaine, on a par exemple Libitina, qui n'a rien à voir avec l'adjectif libidineux. Hein. Je vous arrête tout de suite. Vous êtes déçus.
Oui.
Libitina, qui préside au rite funéraire et qui veille sur les sépultures. Orcus, qui est le roi des morts, qui est différent de Pluton. Pluton, c'est plutôt une personnification du royaume des morts. Alors que Orcus, c'est le mec qui règne sur le royaume des morts. Donc c'est assez flou, mais les gens, j'imagine qu'ils faisaient la distinction très facilement à l'époque. Il y a Proserpine aussi, la femme de Pluton. Voilà, tout ça, c'est les trois mecs qui règnent sur les enfers, parce qu'il y a trois dieux qui sont rois des morts. Je ne me demandais pas pourquoi. Il y a Phébrous qui représente le culte des ancêtres. Et il y a aussi le culte des ancêtres, mais j'y reviendrai dans la partie dédiée aux morts. Et il y a Dispater, qui est une divinité chthonienne, et généralement, les divinités chthoniennes, donc liées à la terre, sont aussi liées au monde souterrain et donc forcément aux enfers. C'est le cas aussi, par exemple, dans la mythologie slave, où il y a plusieurs dieux chthoniens qui donc sont liés à l'au-delà. Il y a plusieurs dieux de l'au-delà, et je ne sais pas si c'est lié au fait que le monde slave est extrêmement important en termes géographiques. Je veux dire, il est vachement étendu. Il y a à peu près autant de noms différents pour un même dieu qu'il y a d'interprétations différentes de la Bible. Par exemple, il y a la déesse Marzana ou Morana ou Maslenista ou plein d'autres trucs qui est la déesse de l'hiver, de la mort, des rêves et de la renaissance, parce que la mort amène généralement à la renaissance dans une logique de cycle. Voilà. Dans le même état d'esprit, il y a Flins qui est peut-être un autre nom du dieu Vélès, qui est un dieu chthonien. Alors, lui, il fait vraiment tout. Un dieu du coup de la terre, des richesses cachées, de l'au-delà, de la magie, du commerce, du bétail.
Le pauvre.
Mais ça, c'est quelque chose que j'aime bien.
Mais j'imagine pas l'administration, tu vois.
Oui, non, mais ça, c'est... J'imagine le monceau
de plaintes.
De papier qu'il a sur son bureau. Et voilà, il y a encore plein d'autres dieux slaves comme ça. Peklabog, Pekolo, etc.
Pekolo ?
Pekolo, exactement. Comme le personnage de Dragon Ball. Je pourrais aborder aussi la question de la mythologie égyptienne, mais là, c'est un peu compliqué, étant donné que tous les dieux ont plus ou moins un rapport avec la mort. Bon, il y a Osiris, qui est le roi des morts, d'accord. Mais si, et Anubis, qui est le dieu des embaumements et des sépultures. Mais sinon, il y a Thoth qui préside, Thoth et Mat qui président à la pesée des âmes. Il y a Isis, qui est déesse de la magie, et donc également qui a une notion de lien avec les âmes. Il y a Amon-Ra qui visite le royaume des morts 12 heures par jour, tout comme visite le royaume du haut. Bref, tout le monde a plus ou moins un rapport avec la mort. Il n'y a que chez les chrétiens et les musulmans, en fait, qu'il n'y a pas d'entité tutélaire du royaume des morts, étant donné que le royaume des morts, en fait, c'est le vrai royaume et que le royaume de la vie, c'est juste une introduction. Alors, sinon, en ce qui concerne le reste de la mythologie, je vais plutôt parler des images qu'on se fait des morts suivant les différentes cultures. Chez les chrétiens, par exemple, alors on se fait une vision assez fausse de l'au-delà chez les chrétiens. Généralement, on se dit, bon, il y a l'enfer et il y a le paradis. L'enfer, c'est pour les méchants, le paradis, c'est pour les gentils. Mais en fait, il y a tellement de trucs, le paradis... L'enfer, mais en fait il y a plusieurs strates dans l'enfer. Et puis il y a le purgatoire, et puis les limbes, les limbes des pères, les limbes des enfants, il y a l'Hadès aussi, et il y a la mort définitive de l'âme. C'est un de ces bordels.
Ils ont carrément fait un limbe pour les gosses.
Ouais, alors les limbes des enfants, en fait, c'est pour les gens qui meurent avant le baptême. Parce qu'ils ne peuvent pas aller au paradis vu qu'ils ont eu le péché originel. Mais ils ne peuvent pas aller en enfer non plus parce qu'ils n'ont pas vraiment péché par eux-mêmes. Donc ils vont là, en attendant le jugement dernier.
Sympa, ils attendent combien de temps?
Bah, en attendant le jugement dernier, bah, ils attendent...
Le temps que ça prendra. Voilà.
Est-ce que tu sais
mais
quand
ils font quoi en attendant, en fait?
J'imagine qu'ils jouent à la marelle ou...
Est-il possible de jouer à la marelle? Parce que pour certains, je pense que c'est les mort-nés, les canards comme ça, ou... qui n'ont pas eu le temps vraiment d'atteindre le temps de marcher ou de parler, quoi. Bah, j'imagine, areux, mais... tu vois, pour argumenter.
Mais d'ailleurs, il y a un truc qui m'a amusé, c'est que dans la mythologie musulmane... Bon, d'accord, ok. Mythologie musulmane, ça peut faire bondir des gens. Dans la mythologie musulmane, l'équivalent du paradis, le Jannah, je le prononce encore une fois super bien, tout le monde a 33 ans. Apparemment, c'est...
Ouais. Pourquoi 33?
Apparemment, bon. c'est le stade suprême dans la vie d'un adulte, je sais pas. Tout le monde a 33 ans.
D'ailleurs, je vais bientôt avoir 33 ans. je dis ça comme ça.
Et bientôt, tu seras apte à entrer au paradis, du coup.
Ça, c'est pas sûr.
Voilà. Donc, chez les chrétiens, il paraît que qu'il y a environ une personne sur 10 qui rentre véritablement au paradis. C'est aussi le cas chez les musulmans. Ce qui fait que, d'après ce qu'a dit Guillaume...
C'est quelle statistique, ça? Tu sais, tu cites quelle source?
Ouais, comment ils savent
Je cite Wikipédia, bien sûr. Ce qui fait que, d'après les données que m'a donné Guillaume, sur les 108 milliards de décès depuis l'aube de l'humanité, il y a à peu près 1% des gens qui sont au paradis. Du coup, le paradis est peuplé de seulement 10 milliards 800 millions de gens. Ça va, on s'approche de la population terrienne. C'est pas si peuplé que ça, en fait. Qu'est-ce que t'en penses?
Non. Non, si on est dans le dogme chrétien, est-ce que si on est dans le Jewish game, théoriquement, il n'y a que le peuple élu. Hein,
Mais alors, tu sais que d'ailleurs, il y a plusieurs interprétations de l'islam ou de la Bible qui disent que, en fait, le paradis, ce n'est pas réservé seulement aux gens qui sont baptisés ou qui croient en Dieu, en la parole du Coran.
Bien sûr que non, théoriquement non. Dans l'idée, le Catholic Game dit que quand tu arrives là-haut et si tu regrettes et si c'est un pardon ça sert, voilà, tu rentres. C'est ça que dit le Catholic Game. Alors que en plus de, si tu prends le Protestant Games, le Martin Luther Game, on va dire, c'est en gros, bah tu sais pas. Tu arrives là-haut, on te fait, bah t'as le bon ticket ou t'as pas le bon ticket, voilà, c'est pas ma faute, c'est comme ça. Après, t'as la version, je te dis, Jewish Game. Le Jewish Game, c'est, est-ce que tu fais partie du peuple élu? Bah oui, ah bah voilà, c'est bon, tu peux rentrer, rien à foutre ce que t'as fait, Ariel Sharon, vas-y, tu rentres, voilà, allez, on
ouais,
y va.
Alors, je vais quand même apporter un petit élément supplémentaire vis-à-vis de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu parles de bons et de mauvais tickets, mais ça, encore une fois, c'est une notion très récente dans la conception de...
Non, en fait, si je comprends bien, il y a des inégalités aussi là-dedans.
Alors, en réalité, dans le Protestant Game, oui, ça date du 16e siècle. C'est-à-dire que depuis 1517, on considère ça. Donc, c'est ça, 400 ans. Mais en réalité, le Catholic Game, oui, c'est la notion de, comment dire, de purgatoire, elle est récente parce qu'elle date de la Contre-Réforme, donc elle date aussi du 16e siècle.
C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que la notion d'éthique, tout simplement, dans la religion, c'est très récent. Parce que généralement, on cantonne les gens dans un paradis ou dans un autre, suivant la manière dont ils sont morts, ou alors tous les gens qui sont morts vont au même endroit. Par exemple, dans la mythologie finnoise, tous les morts restent entouronnés là, sans qu'il y ait de culte particulier ou d'alternative.
Alors que je te dis, le Christian Game, dans la religion chrétienne, on s'en fout. En fait, à partir du concile de Nicée et sensiblement à partir principalement de l'an 1000, à vrai dire, tout le monde y va du moment qu'il est dans le repentir. Et la vraie question d'ailleurs, c'est qu'il va y avoir peut-être un surplus de sens qui va s'accumuler depuis le Moyen-Âge et qui va faire la crise liée au protestantisme et tout ça. Où en gros, bah, il faut savoir sur quoi se joue le salut. Est-ce qu'il y a un salut? Et c'est à ce moment-là que Luther apparaît, parce qu'il y a toute la question des indulgences. Est-ce qu'on peut acheter le salut? Est-ce que voilà, on peut pas l'acheter? Est-ce que comment on fait? Mais dans les faits, si tu veux, le christianisme des premiers jours, celui qu'on veut toujours rattraper, en tout cas dans la chrétienté, à vrai dire, tout le monde est le bienvenu. Du moment qu'il y a un repentir sincère. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Jésus. C'est que heureux ceux qui sont peut-être en bas de l'échelle et ceux qui sont comment dire, dans le comportement le moins exemplaire. à partir du moment où ils disent je regrette et à partir du moment où ils se tournent et sont amour et se retournent vers Dieu, eh ben ils seront les bienvenus.
Mais tu sais que en fait c'est pas tant une notion de regret, c'est une notion de comment dire de communion avec le divin. C'est-à-dire que il y a des interprétations qui font de l'enfer non pas un lieu de souffrance, mais c'est plutôt un état d'esprit. C'est-à-dire que si tu es proche de Dieu, en fait, tout l'au-delà, c'est un même lieu d'omniprésence de Dieu. Et du coup, si tu es proche de Dieu, bah, tu le vis bien. Et si ta pensée s'éloigne de Dieu, bah, pour toi, c'est insupportable. Et du coup, c'est des souffrances auto-infligées. Et c'est
oui,
pas
ça,
des démons ou des anges qui torturent les gens.
Ça, c'est en réalité depuis la scolastique et saint Thomas d'Aquin.
Non, même pas, c'est aussi dans la religion musulmane. Les soufis disaient ça au XIIIe siècle.
Ok. Je pense que nous allons devoir arrêter là, Laurent. Est-ce que vous avez un commentaire, avis ?
Je suis
inarrêtable. En gros, quelle est votre conception de la mort, votre conception religieuse ? Est-ce que vous avez une conception religieuse de la mort ? Parce qu'en gros, c'est ça dont on a parlé.
Je suis agnostique.
Bon, alors, est-ce que tu as un commentaire par rapport à ça, Marie ?
Non, mais j'ai trouvé ça très instructif. Après, moi, je suis athée, donc pour moi, il n'y a pas de vie après la mort.
Alors, je vais vous raconter. puisqu'on en est au stade de cela, je vais vous raconter une petite anecdote très drôle. Il se trouve que quand vous allez à Jérusalem, et particulièrement au Mont des Oliviers, en fait, Jérusalem, c'est une ville dans une cuvette. Et il se trouve que le Mont des Oliviers est donc en haut de la cuvette. Et il se trouve que le cimetière juif, celui d'ailleurs que l'on peut voir dans l'absolument réjouissant, comique, incroyable, liste de Schindler,
celui-là, d'accord.
Oui, celui qui est tout à la fin. Eh bien, c'est le cimetière donc juif. Et le cimetière juif est donc tout en haut de la colline. Alors pourquoi ? Je vais vous révéler pourquoi. Parce que voyez-vous, dans la religion juive, on croit à un truc, c'est que quand le Messie va descendre pour rentrer, va apparaître et redescendre de la vallée pour rentrer dans Jérusalem, eh bien, il ressuscitera sur son passage les gens qui il ressuscitera les gens sur son passage. Et donc, et c'est là où les choses sont un peu folles. Quelle est la grande envie de tous les juifs du monde ? C'est d'être enterré le plus haut possible sur le Mont des Oliviers parce qu'il va être en ressuscité les premiers, tout simplement. Et il faut savoir que, ceci étant dit, quand les Arabes, parce que c'était les Arabes, sont arrivés à Jérusalem et qu'ils avaient un peu peur que quand même le Messie ce soit une vraie réalité, parce que bon, le prophète était quand même monté il n'y a pas si longtemps que ça au ciel pour rapporter le Coran. Et il s'était dit que bon, si cette histoire de Messie était vraie, ça allait être un peu emmerdant. Et en gros, il est bien précisé que le Messie rentra par une porte bien précise à Jérusalem qui est en face du Mont des Oliviers. Donc, comme ils se sont dit qu'il fallait plutôt prendre en sérieux cette superstition, ils ont fait un truc assez radical, ils ont muré la porte. Voilà. Sur ce, je propose de lancer la deuxième coupure et de lancer la chronique de Marie. Et donc, de passer. Voilà. Donc, on va passer à la chronique de Marie. Je ne sais pas pourquoi j'en rajoute des mots, je ne sais pas. Je suis fou, on en est là. Voilà. Allez.
Marie, c'était toi.
Oui. Après la coupure.
Coupure ou pas ?
Après la coupure. Coupure. Nous t'écoutons.
Oui, alors comme l'a prédit intelligemment Laurent, moi je vais parler de la mort, mais je vais aussi parler de la vie. Quand la thématique est tombée la semaine dernière, j'étais un peu moins inspirée qu'avec Sarkozy. J'ai d'abord pensé à parler de moi, et puis au fur et à mesure que les jours passaient, je me demandais en quoi c'était vraiment intéressant et qu'est-ce que je voulais montrer à travers ma propre expérience. Et c'est vendredi soir que je me suis souvenue d'une conversation que j'avais eue avec deux amis. Que je salue d'ailleurs s'ils nous écoutent, on buvait l'apéro, évidemment, en discutant de problématiques sociétales primordiales. Et puis le débat est arrivé sur l'amélioration technologique de l'espèce humaine. J'avais en face de moi une amie qui défendait l'augmentation et le transhumanisme, et un autre qui se demandait s'il accepterait d'être cryogénisé si la technologie assurait de se réveiller quelques centaines d'années plus tard. C'est une discussion assez surréaliste vue comme ça, et puis on en était là dans notre réflexion jusqu'au moment où on a fini par aborder la question cruciale: allait-on un jour abolir la mort? Je ne vais pas répondre à cette question parce qu'en fait je m'en fous un peu, mais je vais prendre le problème à l'envers. Est-ce qu'on accepte la mort? Et sinon, ne serait-il pas plus facile d'apprendre à l'accepter? Nous semblons nous acharner, nous occidentaux, à repousser l'espérance de vie, à maintenir l'homme en bonne santé, à l'améliorer techniquement et esthétiquement, à éviter ou à dissimuler la douleur, ce qui contribue à nourrir notre désir de mort, de la mort, notre déni, pardon. Lapsus révélateur, notre déni de la mort. Les grandes entreprises ne sont pas en reste, avec Google qui a créé un fonds d'investissement spécialisé dans les jeunes entreprises de nouvelles technologies, ou la création en 2013 de Calico par cette même multinationale, entreprise dont le projet est de tuer la mort. Pourtant, tous les jours de notre vie, nous entendons parler d'elle. 14 civils tués samedi dernier en Syrie, 500 sans-abri décédés par an en France, 11 personnes tuées dans une synagogue à Pittsburgh. Moi, de façon personnelle, jamais, pourtant, je n'ai eu l'impression de l'accepter ni de vivre avec. Mes expériences de la mort ont été ponctuelles, mais régulières. À 7 ans, le chat de ma grand-mère, qui saute du 5e étage, retrouvé maculé de sang, est destiné à mourir euthanasié.
Est-ce que c'est toi qui l'as retrouvé?
Ouais, alors j'étais avec ma grand-mère ce jour-là, il était blanc. Donc blanc-rouge, c'est vachement... Voilà. C'était une expérience sympa.
J'imagine trop le chat.
C'était une expérience picturale intéressante.
C'est ça. Exactement. À 17 ans, une camarade de classe à qui le médecin avait diagnostiqué un rhume, c'était une leucémie foudroyante. Et puis ma peur à moi, quand tu penses à l'éternité après la mort et l'incapacité de ton cerveau à concevoir une telle temporalité qui finit par te provoquer une crise d'angoisse. À 20 ans, une hypochondrie légère qui faillit me conduire aux urgences par peur d'une tumeur au cerveau. À 24 ans, la même chose par peur d'une péritonite liée à l'appendicite. Ouais. Appendicite que je n'ai finalement jamais eu. Bref, la mort est partout, mais rares sont les fois où nous en parlons sérieusement et volontairement. À l'heure où le dérèglement climatique pourrait sérieusement remettre en cause la survie de l'humanité, les avancées restent mitigées. Pascal avait écrit « Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Que faire pour ne pas y penser? Se divertir, évidemment. » Du divertissement par les marchandises, et on revient encore à Marx, a succédé le divertissement par le spectacle. Nous sommes passés de l'être à l'avoir, de l'avoir au paraître, et je suis bien souvent forcée de constater que je me complais à me divertir, à devenir spectatrice plutôt qu'actrice, à regarder le monde, à le consommer, certainement pour combler une part du vide et pour éviter de penser à ce qu'il pourrait se passer. Pourtant, Henri Atlan a écrit « La vie, c'est l'ensemble des fonctions capables d'utiliser la mort ». La mort n'est donc pas dissociable biologiquement de la vie et est même souhaitable pour les cellules qui nous composent. Accepter la mort serait donc logique et pourrait passer par des petits riens, prendre conscience de sa peur et de sa fragilité, avoir un peu de tendresse et de bienveillance pour l'autre. Cela pourrait même nous conduire à agir ensemble parce que finalement, qu'est-ce qui caractérise plus notre humanité? Cette finitude tragique, mais qui peut être ô combien constructrice et constructive. Voilà.
Ah ouais, ok. Waouh. Bon. Alors d'abord, puisque nous avons parlé récemment du fait d'être dans l'exactitude, le divertissement chez Pascal n'est pas, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler l'industrie du divertissement.
Alors, ah non, j'ai pas dit ça.
C'est une action contre l'ennui. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une action contre le vertige. Parce que Pascal l'explique bien, quand on est roi de France, par exemple, et que tout d'un coup, on se met face à son humanité, on fait « Waouh, en fait, ça tient à quoi d'être roi de France? Ça tient à rien. En fait, peut-être une merde comme les autres, avec des problèmes comme les autres. Et d'ailleurs, plus je suis haut, plus j'ai de responsabilités, plus en fait, je suis rien en réalité. » Et j'ai besoin de choses frivoles parce que si 5 minutes je me mets face à ma condition d'être humain et à la fois au regard des responsabilités que j'ai, je ne vaux pas plus qu'un autre et en réalité vertige et j'ai envie de mourir. Voilà.
Non, c'est vrai. Mais du coup, je ne rentre pas dans le détail, mais en plus, s'il en parle, il me semble qu'il y a une visée plus ou moins religieuse dans, dans son ouvrage des divertissements. Mais c'était pour
faire
le loin.
C'est dans les pensées. En réalité,
c'est dans
les pensées. Oui, parce qu'il dit un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Mm-hmm. Et après, bon, quand on sait que les pensées s'appellent en réalité l'apologie du christianisme, oui, c'est à visée religieuse.
Voilà. Mais c'est pour faire le lien sur après les autres pensées postérieures. Voilà.
Tout à fait. En gros, je pense, alors après je vous relancerai les uns les autres sur vos avis, je pense que tu as une chronique qui est très spinoziste. En gros, Spinoza dit que, en réalité, la pensée de la mort, nous ne devons pas penser à la mort, nous devons plutôt méditer sur la vie et quoi faire de notre vie et qu'en faire et être heureux avec notre vie. Voilà. Qu'avez-vous pensé de cette chronique, Laurent, un avis ?
Oui, j'avais un avis. Attends, il faut que je me le remette en tête. Ouais, moi, ce qui me dérange toujours, et c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, en fait, c'est cet aspect de la mort, en fait, ça nous permet de développer une éthique, un amour des autres, etc. Je comprends pas pourquoi, en fait, parce que moi, j'ai peut-être que j'ai pas été assez confronté à la mort. Mais pour moi, c'est quelque chose d'assez lointain, d'assez vague. Et tout compte fait, finalement, c'est aussi quelque chose de très proche, étant donné que, comme tu le dis, on vit avec tous les jours et ça fait partie de la vie. Du coup, c'est tu peux pas passer à côté. Et si tu te dis ça fait partie de la vie, ouais, ben la mort, ça peut me tomber dessus le lendemain, c'est pas grave. En fait, si tu te dis c'est pas grave. Ben, il n'y a pas ce vertige. C'est ce qui est important dans la pression du souverain que tu évoquais, je pense que c'est la notion de responsabilité. Parce que si le souverain n'a pas de responsabilité, s'il ne se disait pas qu'il y a des gens qui ont besoin de lui, il n'y aurait pas de...
Non, en fait, c'est pas du tout ça le propos de Sartre. De Pascal. Le propos de Pascal, c'est de dire qu'en réalité... il est extrêmement vaniteux de se sentir au-dessus des autres. Et en réalité, si tu te poses 5 minutes sur ce qu'est roi, ça tient pratiquement à rien. Et en réalité, tu ne vaux vraiment pas plus qu'un autre. Et à partir de ce moment-là, pourquoi on t'érigerait mieux qu'un autre ? Pourquoi ton existence serait plus valorisée que les autres ? Et à ce moment-là, face à ce vertige du décalage entre ce que on pense, ce que entre guillemets tu incarnes et ce que tu es, et bah vertige en réalité.
Mais est-ce qu'on peut pas être roi et être un humain normal? Est-ce que c'est forcément, je veux dire, oui, t'es mieux élevé que les autres, mais c'est pas extrêmement, enfin t'es mieux élevé, t'es élevé dans de meilleures conditions que les autres, mais c'est pas forcément grave.
Oui, mais en réalité, c'est si tu veux, chez Pascal, c'est
à partir du moment où c'est que tu peux mourir demain comme tout le monde.
C'est quelque chose que tu vis toi au quotidien. En réalité, plus tu es entre guillemets, plus on fait quelqu'un d'important, plus tu réalises que tout cela ne tient à rien et que c'est sûrement de la flatterie, que c'est sûrement tout un lot de choses qui, oui, ce n'est que vanité. Ce n'est que vanité. Ce n'est que parce que tu y crois que ça a de la valeur. Et en réalité, t'es pas grand-chose. Marine, un avis.
Moi, elle parlait de la mort, de nous, occidentaux, on l'éloignait de plus en plus. Mais pourquoi, en fait, on a vraiment envie de l'éloigner? C'est quoi l'intérêt? Parce que oui, c'est vrai que quand il y a des choses à vivre, on n'a pas forcément toute une vie pour faire plein de choses. Mais c'est quoi ce besoin de vouloir à tout prix repousser l'âge de la mort?
Alors, je sens que tu veux revenir sur ton sujet, sur en quoi vouloir être immortel, c'est ça ?
Ouais, entre autres. Et moi, en fait, tu vois, c'est pas la peur de mourir, ce serait plus la peur, c'est la façon de mourir qui me ferait plus peur.
On pourrait en pas. Je pense que je vais, entre guillemets, esquisser ça dans ma chronique, donc on pourra en parler. Mais oui, tout à fait. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous rappellerons que dans la loi... Nous avons des directives anticipées que je vous conseille de tous faire, c'est-à-dire un directive anticipée, c'est comment vous souhaitez mourir. Et vous avez une jolie page qui vous permet de le faire dans si vous cherchez loi Leonetti et .gouv quelque chose d'ailleurs, parce que tout est .gouv dès qu'il s'agit de préparer quelque chose au regard de l'État. Mais voilà, oui, Je suis assez d'accord avec toi. Tout dépend comment on meurt. D'ailleurs, je pense que la première angoisse de la mort, en réalité, on s'en fout. On s'en fout de mourir en réalité parce que mourir, tu meurs. Et puis
c'est
après.
Naturel.
Puis c'est pas ça, c'est que à vrai dire, quand t'es vivant, t'es vivant, quand t'es mort, t'es mort,
c'est
et t'y penses plus.
C'est plus le moment.
En réalité,
c'est
le postulat du départ. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas partir et comment tu vas partir ? Est-ce que tu vas partir ? Exactement. Et c'est voilà, c'est ça.
Puis est-ce que tu vas souffrir et puis plein de questions.
D'autant plus à notre époque où il est possible de te maintenir en vie alors que voilà.
Mais c'est marrant parce que là encore une fois, on parle pas de la mort, on parle de la vie parce que comment tu vas partir ? C'est moi la phase de transition vers l'état de la mort la préparation.
Mais les deux sont liés et tu l'as dit tout le long de ta chronique finalement parce qu'il y a plein de mythologies qui ne dissocient pas la mort et la vie et donc c'est difficile.
Non, j'ai
dans
pas
mon
dit
point
ça.
De vue,
ce que
non,
j'ai
tu
dit,
l'as pas
c'est
dit,
que
mais si tu reprends
la mort, c'est une étape
dieux,
vers la vie.
Ouais, mais si tu reprends les dieux, et ben on peut faire le décompte des dieux qui sont aussi associés à la vie et qui sont pas seulement associés à la mort. Et c'est intéressant, je pense qu'il y a aussi pas mal de mythologies qui ont des dieux qui sont à la fois liés et à la vie et à la mort. Parce que, à mon sens, les deux sont liés. C'est difficile de pas parler de l'un sans parler de l'autre. Mais...
Mmh. Ok.
C'est un peu le yin et le yang.
Nous allons mettre la coupure du milieu. Alors la coupure du milieu, c'est un peu notre ironie du soir. C'est un peu...
C'est moche. C'est Guillaume qui en prend la responsabilité.
C'est un peu notre rigolade. C'est un peu notre galéjade en lancée à la face du monde.
C'est une vraie bouffonnade.
Bon, bref. Donc, il faut savoir que depuis qu'on me l'a proposé et que j'ai trouvé ça très drôle, je l'écoute en boucle. Donc, je vous mets la coupure du milieu, à savoir que c'est du Grégory Lemarchal. Je suis en vie. Et ce qui est très drôle, parce qu'il est mort. Sur ce, jingle.
Jamais, si c'est encore loin, ou bien trop.
Hey, bienvenue.
J'ai hésité à la faire. Je suis...
Ça va?
Oui, 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 oui. Alors,
oui, oui. Je dis oui.
Nous sommes encore tous en vie.
Je suis
zombie. Je respire et j'espère.
En vrai, c'est drôle. Vraiment, à chaque fois que je l'écoute, je me dis qu'il est mort et je rigole.
C'est horrible.
Je l'écoute depuis ce matin. Depuis que j'ai décidé que j'allais la mettre en jingle.
Je chante très très bien. Hein. Surtout du Céline Dion et du Garou.
Pas
du
tout. Bah pas écoute, du tout. Oui. Un jour, tu vas finir en jingle et tu vas faire moins ta maline. Eh bien, nous arrivons à la troisième chronique de ce soir. Et cette troisième chronique, elle est par Marine. Marine, dès que Laurent aura fini de décéder...
Crève en silence, s'il te plaît.
Oui, bah alors, je fais ce que je peux. Hein.
Mais en silence. C'est mieux.
C'est à qui? C'est à toi? Je t'en prie.
Alors, vous êtes prêts?
Oui.
Marine, nous t'écoutons.
Alors, bah, moi, je vais parler du sujet du deuil, donc ça sera pas forcément drôle non plus. Alors déjà, le deuil, ça veut dire dolus en latin. Ça signifie douleur. Donc en fait, quand on fait son deuil, c'est faire sa douleur et non passer à autre chose. Ça, c'est assez drôle parce qu'en fin de compte, on est assez majociste quand on fait son deuil. Alors, qu'est-ce que le deuil? C'est la détresse, le désarroi, le désespoir, la douleur, où l'on perd quelqu'un qui nous tenait à cœur, ayant une place conséquente dans la vie. Le deuil, c'est quand on est confronté à diverses émotions et sensations, toutes plus difficiles et désagréables. Alors, le deuil n'est pas forcément lié à la mort, elle peut être liée aux ruptures amoureuses, au travail, à quelque chose qu'on tenait vraiment. Mais bon, on va se concentrer uniquement sur le deuil avec la mort, vu que c'est notre chronique. Il existe différentes étapes pour le deuil, c'est un processus commun, mais il est unique à chacun selon les personnes, les liens qu'elles avaient avec la personne qui est décédée. Et personne ne la vit de la même façon, et il n'y a pas d'ordre précis à vivre le deuil en soi. Et ça peut même devenir un cercle vicieux. Parce qu'en fait, il existe aussi différents types de deuil qui est considéré comme pathologique, comme des maladies en fait. Alors, les types de deuil. Il y a le deuil hystérique. La personne endeuillée se comporte comme le défunt ou présente des attitudes physiques. Il essaye de lui ressembler. Il a des comportements autodestructeurs, poussant parfois même au suicide, de but de le rejoindre.
J'imagine le mec. Ouais, c'est les. En gros, c'est les gars qui se déguisent dans Michael Jackson.
Mais en gros, c'est ça.
Non, mais c'est ça. C'est en gros les gens.
Attends, t'imagines tous ceux qui. Fans de Johnny Hallyday.
En gros, c'est les fans de Johnny Hallyday qui se griment en Johnny Hallyday quand il meurt. Ok, c'est ça en gros.
Ah bon?
Mais oui, c'est ça le deuil hystérique.
Bah, ça existe vraiment.
Elle se comporte comme le défunt en présentant des attitudes physiques.
Bah, de toute façon, là, tous les types de deuil que je vais te parler.
Oui, mais alors, ça veut dire qu'on est plus dans le fanatisme, là.
Mais on appelle ça le deuil.
Est-ce que ça peut marcher sur.
Mais peu importe, même si c'est pas forcément. Une relation de couple, un truc
comme ça.
Oui,
d'accord.
Oui, okay. C'est possible. C'est, très bien. Ça existe, d'après toutes mes recherches que j'ai faites. Après, il y a le deuil obsessionnel. Le deuil obsessionnel. Alors, cette pathologie est marquée, comme son nom l'indique, par les obsessions. Alors, progressivement, de nombreuses pensées telles que la mort, le suicide et la personne disparue se mêlent de façon répétitive. Et elles finissent par mettre la personne endeuillée en état de fatigue, luttant et créant des insomnies, allant jusqu'au suicide.
Bonne ambiance.
On a le deuil.
Donc là, on en a deux qui finissent par le suicide, potentiellement. C'est sympa.
On a le deuil maniaque. La personne endeuillée est dans le déni le plus total. Son comportement est plutôt jovial et parfois même excessif. Et ça amène à l'agressivité puis la mélancolie. Il y a le deuil mélancolique. Cette fois-ci, la personne ayant perdu l'être qui lui était cher se sent coupable de sa mort et se dévalorise, menant à la dépression, voire même au suicide. En fin de compte, on peut remarquer que le deuil, ça ressemble à ça, la dépression, dans tous les cas. Il y a le deuil traumatique. Le deuil... La personne est constamment angoissée et tombe très rapidement en dépression. Celui-ci survient notamment après une perte brutale et celle-ci peut avoir des conséquences sur le système immunitaire provoquant des cancers et des troubles cardiaques. Sachant que certaines personnes sont poussées à avoir des comportements nocifs en ingérant des produits addictifs tels le tabac, la drogue, l'alcool ou encore des psychotropes.
En gros, c'est le moment où tu fais la vie, c'est de la merde. Allez, c'est bon. Ah, le cul. Ok, c'est ça. Hein,
oui. En gros. Et en plus, tu somatises. C'est sympa.
Et il y a un autre type de deuil, c'est le deuil post-traumatique. Et celle-ci, elle survient lors de la perte d'un proche qui se déroule en même temps qu'une autre menace, comme un accident de la route. Survie lors d'une catastrophe avec de nombreux morts, survenue chez des personnes qui ont failli s'embarquer avec autrui dans l'avion ou le bateau ayant échoué. C'est l'idée de partager un sort potentiellement commun et d'y échapper par chance, qui confère une proximité avec les victimes et en particulier les personnes décédées. L'endeuillé ressent à la fois de l'impuissance, de la culpabilité d'avoir survécu et perçoit la mort du défunt comme la sienne.
La culpabilité du survivant.
En gros, c'est les mecs qui avaient pris assez bien à une semaine du 13 novembre. Pareil, parce qu'on enregistre le 13 novembre, mais vous l'écouterez, je pense, aux alentours de 20. C'est les gens qui ont fait oh, mince! Et je devais aller au concert des Girls of Death Metal.
J'y suis allé,
mais j'ai toujours envie. Ouais, mais il y a pire, c'est vraiment ceux qui font oh, mon Dieu, je devrais y être, mais j'y étais pas. J'ai failli mourir. Tu fais, mais ta gueule, t'avais pas 35 euros pour te payer la place, ta gueule, ok. T'étais pauvre.
Oh mince, j'ai loupé quelque chose. Oh,
un bon stress post-traumatique et une bonne dépression. Alors. Ah, mince.
En vrai, vraiment, j'aurais pu faire partie de la grande histoire. Bon.
En vrai, c'est un bon groupe.
Oui. Alors, parle-nous des étapes, Marine.
Alors, les étapes. C'est là qu'on revient aux étapes du deuil. Et une chose est sûre, c'est qu'on passe malgré tout, pour les premières et mêmes étapes, le choc. C'est après ça que le comportement des individus varie selon les relations qu'elles entretenaient avec la personne décédée. Elles peuvent se succéder par la colère, l'anesthésie, la tristesse et la dépression. Alors déjà, pourquoi la colère ? On ne comprend pas pourquoi donc cela ait pu arriver, pourquoi certains sont encore en vie, pourquoi personne ne peut remplacer l'être qui nous était cher à nos yeux. En fait, il y a comme un sentiment d'injustice, donc on est en colère contre tout le monde, contre la vie, contre tout.
Ouais, en gros, si on l'applique à la relation amoureuse, c'est « Pourquoi il m'a laissé tomber ? Mais vraiment, j'en ai la rage ! Pourquoi il a fait ça, ce con ? Putain !»
C'est ça.
Ok. Ou si on parle de la mort.
Vous êtes conne, hein, parce que tu parles, oui, mais... tu parles pour les filles, toi.
Mais
là.
C'est pas ça, c'est hein? Parce que. C'est
alors
parce
que t'es un mec.
C'est peut-être parce que j'ai une idée en
tout
tête.
De suite, c'est hyper mature.
C'est peut-être parce que j'ai une idée en tête, on précise. Mais pour la mort tout court, ça peut être, par exemple, la personne qui avait un cancer, qui s'est laissé aller, qui a fait un embellissement. Et pourquoi il s'est laissé aller ? Pourquoi il m'a laissé tomber ? Pourquoi moi ? Voilà. Ensuite.
C'est tellement égoïste.
Alors, il y a la phase anesthésie. Alors, quand on dit phase anesthésie, c'est quand on est dans le déni ou qu'on n'a pas vraiment conscience des faits. Notre cerveau n'arrive pas à joindre les deux bouts pour faire le rapport. Tout simplement, on peut dire que c'est le déni où on a le comportement jovial, où on peut tomber dans la phase maniaque.
C'est la surcompensation.
Ouais, c'est pas ça. C'est quand quelqu'un est mort, c'est non, c'est pas possible. Il veut pas être mort. Ah, c'est pas possible. Ouais. Ou si c'est une relation amoureuse, parce que la relation amoureuse s'implique bien au deuil, c'est non. Non, il n'a pas pu me laisser moi. Non, c'est
du
pas possible.
Tu lui envoies des messages comme au premier jour. Et puis,
c'est exactement ça. Tu mais tu sais, pas. C'est généralement. Enfin, je vais laisser parler Marina ensuite. C'est le moment où tu lui dis non, reviens. Non, reviens, s'il te plaît, reviens. Et c'est le déni, c'est pas fini, mais on croit encore que c'est possible.
Enfin, si, c'est fini, mais on croit encore.
Voilà. Ensuite.
Après, il y a la tristesse et la dépression, donc la douleur est plus intense, on perd quelque chose d'important, on perd ses repères, on se sent seul, et on pense que là-dessus, personne ne peut nous comprendre, et pour mieux appréhender le deuil, on passe souvent par une étape appelée la dépression, on revient juste encore avec cette dépression qui est toujours là, et là, on se perd corps et âme dans les souvenirs, et puis... Vous avez juste à réécouter notre sujet sur la dépression pour en savoir un peu plus.
En gros, c'est le moment où...
on fait de l'auto-référencement.
C'est pas là qu'on a envie de mourir.
Non, c'est le moment où tu dis c'était mieux avant.
Ouais.
Généralement, ce soit dans la relation amoureuse ou que ce soit dans la relation ou dans le deuil, dans la mort, tu dis c'était quand même vachement mieux quand j'étais là.
C'est un peu une révélation. On se dit putain...
c'est le début de l'acceptation quand même.
Il nous manque quelque chose. Je sais même plus ce que tu m'as coupé.
Non, mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est le moment où, en réalité, tu dis, ça y est, il reviendra plus. C'est pas que t'acceptes, c'est que c'est finalement, ça y est, la perte est là. La perte est là et elle semble insurmontable parce que la perte est là. Voilà.
Ouais. parce que ça peut devenir une spirale infernale. Et donc, c'est là, ça peut nous pousser à la dépression et aux certaines pathologies qu'on a pu voir précédemment sur le deuil. Mais au fil du temps, on peut l'accepter. Il y a la phase d'acceptation. Donc, c'est la toute dernière phase qui est souvent... comment dire ? Tout le monde la connaît, plus ou moins. Donc, on accepte vraiment que la personne est morte. On accepte aussi qu'on souffre du décès. Mais que rien n'est perdu. Il faut qu'on avance. On progresse dans la vie. Alors, comme pour la dépression, le deuil, c'est du cas par cas. Chacun y va à son rythme. Il ne faut pas se forcer à en parler si on n'en ressent pas le besoin ou si on n'est pas prêt. Mais il y a toujours un moyen de se changer des idées, faire des choses qui peuvent nous plaire, dont on a envie à ce moment-là. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Ben oui et non, dans un sens, c'est normal et légitime de passer dans ces phases-là pour pouvoir mieux avancer. Et aussi, c'est pour cela que les psychologues existent.
C'est pour ça qu'ils gagnent de l'argent. C'est ça que t'as en train de dire, Marine. Ça, t'es connu. Je veux pas dire ça. Mon fond de commerce, c'est les gens qui sont mal. La mort, je kiffe parce que moi, ça me donne de l'argent. Je te raconterai une histoire sur Bac juste après. Tu verras, ça va te plaire. Oui, je sais que tu m'arrêtes. Parce que je t'interromps. Donc, c'est pour ça que les psychologues existent. Dis-moi tout.
Et inversement, en fait, si c'est un proche qui est en deuil, nous, comment on peut subvenir à ses besoins ? Dans tous les cas, il n'y a pas de recette préfaite. Tout ce qu'on peut faire, au moins, c'est d'être là en tant que soutien. Et il ne faut pas le forcer à quoi que ce soit. Et si vraiment on pense qu'il peut faire des conneries, il faut lui parler de nos inquiétudes. Et on va dire, essayer, pas le forcer, mais l'encourager à aller voir les professionnels pour en parler.
Mais tu sais que des fois, ça culpabilise les gens hein, quand tu leur dis...
Non, mais le but, c'est pas de culpabiliser, mais montrer en fait qu'il y a des gens qui sont là pour soutenir.
Qu'il y a des solutions.
Voilà, il y a toujours des solutions à quelque chose. Mais faut leur en parler, pas les forcer en fait.
Plutôt être dans l'écoute, quoi.
Voilà. Et donc, on peut voir... Je sais plus où ça a été dit, mais le deuil, en fait, faut le voir ça comme une phase de survie.
Bah oui. Parce que c'est ce qui permet de passer à autre chose, en réalité. Donc de faire ce qu'on appelle la simple dissertation rupture et continuité. Il y a eu rupture, mais c'est une continuité. Voilà, tout simplement.
Ouais. Et j'ai vu un truc intéressant sur Wikipédia, c'est la durée du deuil. Donc en France, un deuil officiel, en fait, c'est tout ce qui est décès d'une personnalité importante ou des événements importants tels que les attentats. La durée est d'une minute de silence dans les lieux publics ou les écoles.
Un deuil national.
Voilà. Donc c'est une minute. Par contre, j'ai vu qu'à une certaine époque, j'ai plus la date, mais ça, c'est sur Wikipédia, les enfants, il y a un temps fixé selon les liens de parenté du défunt. Donc il y a même un tableau. Hein. Là, j'ai noté seulement pour les conjoints. En fait, le veuf a un an de deuil et la veuve 2 ans. Alors la femme, elle ne doit porter que des vêtements pendant la première année noirs, pas de bijoux. Si elle porte un chapeau, faut qu'il y ait le. Elle est obligée de porter un chapeau pendant 6 mois avec le voile.
Est-ce que je peux t'interrompre pour te demander dans quel document c'est lissé ?
Non, mais ça se faisait au Portugal il n'y a pas si longtemps. Hein. C'est une tradition. Ouais.
Parce que tu donnes des trucs très précis et du coup, je suis...
J'ai plus les dates, par contre, je ne l'ai pas noté, ça c'est de ma faute. Et en fait, okay. Donc le voile noir jusqu'aux jambes, et donc elle peut le lever qu'au bout de 6 mois. Excepté en cas de chaleur, elle peut le mettre au niveau des épaules.
D'accord.
Et par contre, elle pouvait se permettre de porter du violet ou du gris en période du demi-deuil, donc après 1 an. Par contre, l'homme, lui, devait porter des vêtements sombres et un ruban de crêpe noir ou un bandeau autour de son bras.
Et je pense que c'est la prochaine phrase va être « Depuis quand est-ce qu'on faisait ça ?» Puisque visiblement...
C'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale que le deuil a commencé à évoluer.
Donc en gros, on faisait ça plutôt avant la Seconde Guerre mondiale, plutôt au 19e siècle. C'est un rite avant le 19e siècle.
Je tiens à dire qu'un ruban en crêpe noire, ça me semble pas très pratique parce que ça risque de pourrir. C'était quel embourg de merde. Vous pouvez continuer de vivre normalement.
Et sinon, il y a aussi le deuil estival parce que chez nous, c'est connu, on porte du noir. Mais pourquoi on porte du noir ? Parce que le noir s'associe à l'obscurité. Quand on ferme les yeux pour dormir, ben on est dans le noir. Et même quand on est enterré 6 pieds sous terre, on voit rien. Donc forcément, on est dans le noir. Mais t'as d'autres pays comme le Vietnam, la Corée du Sud ou l'Inde, on porte du blanc. C'est pour appeler la pâleur de la mort, mais aussi la lumière céleste. Mais t'as d'autres pays comme la Chine ou le Japon, eux, ils portent les deux. Et sinon, oui, comme on a pu voir précédemment, on peut porter aussi du violet, la lavande, ben du violet, donc la nuance lavande ou le mauve, pour être admise, car elle signifie la messe des morts.
Oui, bah, de toute manière, c'est généralement lié à toute une notion mythologique qui dit que le monde des morts, c'est le monde souterrain, et donc qui dit souterrain dit obscurité, caverne, etc. D'ailleurs, les condamnés à mort dans la Rome antique, on leur mettait un ruban noir sur les yeux pour leur donner un aperçu de leur prochaine vie, vu que ça va être dans le noir.
C'est faux.
Donc, nous avons parlé des cinq étapes du deuil et du deuil en soi. Alors, pour être... déjà, je voulais vous... puisqu'on est là, nous parlions de... Alors, je ne sais plus pourquoi je voulais vous raconter ça, mais... En gros, il faut savoir que cet extraordinaire compositeur qui est Jean-Sébastien Bach vivait à Hambourg. Un jour, l'empereur de Vienne lui dit, l'empereur d'Autriche lui dit, viens vivre à Vienne et viens faire des trucs à Vienne, faire des compositions. Et très vite, alors que Vienne est fastueuse, etc., etc., Bach décide de retourner à Hambourg, qui est donc une ville maritime où il y a des marins. Qui, en gros, comme dans le port d'Amsterdam de Brel, qui, comme dans le. Tu peux répéter ce que tu viens de dire ?
Je disais, j'y pensais très très fort quand tu dis.
En gros, il y a des prostituées, il y a des marins, etc. Et pourtant, il veut retourner dans cette ville malfamée. Et bien pourquoi ? Parce que, comme tout organiste, Bach était payé à la messe. Et à Hambourg, on crevait beaucoup. Et donc, ça veut dire beaucoup d'enterrements. Ça veut dire beaucoup de messes d'enterrement. Et donc. Il vivait mieux et il était plus facile de nourrir sa famille très 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 nombreuse qu'à Vienne où on ne mourait pas assez.
Faut voilà. Bien faire sa vie, hein.
Et donc, nous parlions donc des cinq étapes du deuil. Donc, si je me souviens bien des cinq étapes du deuil, c'est d'abord le choc, la colère, le déni, la dépression.
Après,
et l'acceptation.
Il n'y a pas vraiment d'ordre particulier selon les personnes, hein. Ça peut varier.
Alors, normalement, celui qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, on va se faire du fact-checking, mais... il me semble que les cinq étapes du deuil se passent dans cet ordre-là, et c'est toujours dans cet ordre-là, quoi qu'il arrive. Parce qu'en réalité, généralement, les personnes sont beaucoup bloquées entre deux phases. Généralement, c'est la colère et le déni. Alors, typiquement, je peux t'en parler, puisque récemment, il est probable que j'ai quitté quelqu'un. Et en gros, c'est le moment où tu fais... Putain, t'es une pute. Ramène-moi mes affaires. Ramène-moi mes affaires. Non, mais franchement, tu me dégoûtes. Non, attends. En fait, non, je suis désolé. Je regrette. Non, reviens. Non, mais en vrai, t'es un connard. Non, mais vraiment, je te déteste. Va crever. Voilà. C'est ça, en gros, ce moment où généralement, dans les cinq étapes du deuil, on revient à l'un ou à l'autre. Parfois même, on revit la dépression. Et d'ailleurs, on dit que chez les personnes âgées qui ont Alzheimer, il est probable que comme elles ne se souviennent pas de la perte de l'être cher, par exemple une grand-mère qui a perdu son mari et qui ne s'en souvient pas, refasse les cinq étapes du deuil et parfois même réoscille entre ces cinq étapes du deuil. C'est-à-dire que, et je dis le plus courant généralement, c'est le déni et la colère. Parce qu'en réalité, la dépression, c'est déjà la phase d'acceptation. Parce que quand tu déprimes, tu es déjà dans la perte. Tu as déjà accepté la perte en réalité. Et l'acceptation, c'est pas accepter
c'est quand tu finis en fait
ouais c'est que tu acceptes de partir vers un nouveau départ, c'est que en gros pour reprendre encore la métaphore pour reprendre la comparaison avec le deuil d'une relation amoureuse, c'est le moment où tu te dis finalement je suis très bien seul et je suis heureux et je suis capable de repartir comme ça parce que je suis heureux tout seul et je suis prêt à réouvrir mon cœur. Alors qui veut prendre la parole pour parler de la chronique de Marie sur les cinq étapes du deuil de Marine ?
Moi, je peux parler déjà de mon expérience parce que on va dire que moi, j'ai vécu ça comme si c'était pas un choix, on va dire, vu que j'étais gamine pour ma mère. Donc ouais, forcément, j'étais quand même plus dans le déni du fait que je comprenais pas. Moi, c'était juste de l'incompréhension et quand t'acceptes, ouais, forcément, t'as des phases, mais bon, peut-être que j'ai mis du temps à accepter, mais voilà, dans tous les cas, j'ai vécu sans depuis un long moment, donc c'est pour ça que mon père, je pense que, ouais, ça fera me chier, ça me rendra triste, mais ça sera plus facile à accepter.
D'accord. Ok, non, c'est, je trouve, oui. Excuse-moi, j'ai du mal à rebondir là-dessus, Marine.
Ah, mais c'est pas grave.
De toute façon, déjà sur l'épisode sur la dépression, j'avais du mal à rebondir sur toi.
Putain. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
C'est dégueulasse.
Le fameux c'est dégueulasse de Marine. Le fameux. C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse.
Oui.
Marie, est-ce que vous avez des remarques?
Oui, Marie, est-ce que tu as déjà été confrontée à la mort?
Non, pas de proches. Donc, moi, c'est plus sur mes ruptures amoureuses où il y aura ces étapes du deuil-là, mais sinon, non, pas vraiment.
Alors, sur les ruptures amoureuses, moi, j'ai jamais eu trop de soucis, par contre.
Oui, mais peut-être parce que, comme tu nous l'as expliqué, et parce que tu es comme moi, sur l'épisode des ruptures amoureuses, que je vous conseille d'écouter, c'est l'épisode 2, je crois. Tu as toujours été plutôt quelqu'un qui largue, non?
Oui, mais même pour avoir été larguée, même si récemment, c'était pas vraiment, c'était juste un flirt. Je m'inquiétais pas, je m'en suis vite remis, quoi. Je fais bon, tu pleures à mon coup, ça va passer. Et puis...
Mais je pense que même quand tu largues, tu peux avoir ces étapes du deuil. Et que j'ai eu du mal à le faire pour une personne. Et je pense que ça a mis 2 ans avant que finalement je tourne la page. Parce que je ne savais pas que justement il fallait que je fasse des étapes. Oui. Et que ça a été contre-productif.
Parce qu'il y a eu des sentiments et c'est ça aussi que tu lâches et c'est ça qui te remet en question.
Après, je pense que c'est moins difficile, mais ça n'empêche que même si tu es en position de larguer la personne, tu peux tout à fait faire déni et puis.
Oui, j'ai jamais eu de deuil à encaisser réellement. J'ai vécu la perte de ma grand-mère maternelle et puis la mère de ma belle-mère que j'aimais beaucoup. Oui, c'est bizarre dit comme ça.
Oui, complètement, mais vas-y. Non,
Bref, je vais continuer. Finalement, étant donné qu'elles avaient tous les deux des cancers, je m'y attendais et c'est passé. Voilà, c'est comme ça, c'est fait, elles ne souffrent plus. Du coup, j'ai jamais eu vraiment de deuil à souffrir.
Bah, tu l'as fait sans que ça soit une souffrance,
oui,
en fait.
Oui, mais
tu,
voilà,
tu
de toute façon, c'est
deuil.
Ce que je disais tout à l'heure. Hein, la mort, ça fait partie de la vie. Je peux mourir tous les jours. Tout le monde peut mourir tous les jours. Si Guillaume meurt demain, bon, je serais un peu triste, mais voilà, je serais pas surpris.
Avec sa façon de vivre, ça m'étonnerait pas.
Allez, vas-y, on rajoute en couche. Allez, tout le monde va y va. Allez, qui se fait plaisir et tout. Allez, hop. Ok, bon. Écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Si on vous avait rien à ajouter, nous allons passer à la chronique suivante.
Moi, je remarque que ça a quand même mis l'ambiance.
Oui, oui. Alors, on y va. Je vais vous dire quelque chose. Il se trouve que vendredi, nous sommes dimanche. Vendredi, nous avons discuté de oui ou non remettre Marine en chronique. Je vais dire que j'étais.
Tu as discuté de ça.
Je lui ai dit que j'étais plutôt opposé.
Parce qu'il est sexiste.
Il y a des gens qui m'ont dit tu devrais lui donner sa chance. Et j'ai dit ok, je me laisse convaincre. Ok, j'écoute. Ok, je laisse faire.
Je suis dans le dialogue.
Exactement. Je suis pas d'accord, mais je laisse faire. Et au final, oui, je suis agréablement surpris.
Je dis oui.
Mais Marie, c'est pas la peine de me faire des doigts. Et peut-être que j'aime ça d'ailleurs. Mais oui, c'était une très bonne chronique. Et en même temps, c'était une très bonne chronique.
Tu sais plus quoi dire.
Non, c'est pas ça. C'est comme dit Laurent, on peut pas faire des compliments à moitié. Et en même temps, parfois, on arrive dans un certain moment de malaise parce qu'on voudrait en rajouter, mais pas trop en dire non plus. Voilà.
Je dis ça, moi.
Oui, c'était la semaine dernière sur l'absence de Marine, etc., et que tu m'avais trollé. Voilà. Marine, j'étais ravi de cette chronique, c'était très bien, et j'aime bien quand tu me donnes tort. Donc sur ce, nous allons mettre
oui.
Une nouvelle coupure.
Ouais.
Et il se trouve que
ça sera pas du Grégory Le Marchal.
Non, hélas. Pas du tout. D'ailleurs, nous allons initier, je crois, quelque chose de nouveau dans Dimanche Dépression parce que c'est un genre nouveau qui n'a jamais été dans Dimanche Dépression. Voilà, qui est en coupure.
Tu vois, la mort, la renaissance du podcast.
Est-ce que c'est
Mais oui, complètement.
Est-ce que c'est le genre où je vais garder mon casque?
Ouais, c'est le genre où tu vas garder ton casque. Sur ce jingle. Yeah.
Merci, bienvenue à Dimanche Dépression.
Donc, c'est l'instant de la dernière chronique, et à la, en l'occurrence, c'est ma chronique. Je bois un coup pour avoir la laine fraîche et surtout...
Parce que t'aimes ça.
Et surtout, ne pas, surtout pour que j'évite de bégayer. Et donc, je me lance comme un fou dans ma chronique. Commençons par moi. Il fait nuit. Je réfléchis. Mon âme voguant, je pense à la mort. Soyons clairs, j'ai peur de la mort. J'en ai une peur panique. Parfois la nuit, j'ai du mal à m'endormir tant cette pensée m'obsède. Cette pensée de la fin de mon existence m'angoisse. Seul face à mon insomnie, je réfléchis. D'abord, il faut savoir... Attendez. D'abord, il faut savoir que la mort, j'y suis confronté quasi quotidiennement dans mon milieu professionnel. Non, je ne suis pas un autopracteur ni un croque-mitaine. Et c'est peut-être encore pire.
Un croque-mort, pas un croque-mitaine.
Ouais, c'est pareil.
Non, mais c'est pas pareil.
Tu okay, entres les placards des petits-enfants.
T'es pas Freddy Krueger encore.
Je ne suis pas croque-mort. Et c'est peut-être encore pire. Je suis soignant dans une maison de retraite. Les morts, je les ai vus vivants. Et puis ils sont partis dans un dernier souffle. Il faut savoir que j'ai un rapport à la mort très particulier par rapport à plusieurs de mes collègues. Une fois mort, je n'ai aucun mal à faire leur dernière toilette. Le silence, la pénombre, les échanges avec mes collègues sont autant d'instants subtils et suspendus. Pendant un moment, la mort nous rappelle à la fluidité du temps. Dans ces moments, il s'arrête, quelques souffles, quelques rires et quelques gestes. Nous allons à l'essentiel. Et puis, on met un point final. Cependant, jamais je n'ai été ému par un décès. Jamais je ne suis retourné les voir. Très vite, je les oublie. La mort des autres, oui, mais la mienne, non. À l'heure où je suis sensibilisé à la question des directives anticipées, je ne peux me résoudre, même en cas de mort cérébrale et autre tétraplégie, à entrevoir l'arrêt des soins. Plutôt souffrir que crever. Peut-on s'affranchir de la pensée de la mort ? Vais-je un jour pouvoir enfin m'endormir tranquillement ? Ayant un maigre master en philosophie, c'est là que je vais y piocher mes réponses. Donc commençons par le commencement. Montaigne dans les essais, balance entre la poire et le fromage, philosopher, c'est apprendre à mourir. Ah, d'accord, mais encore. Il semblerait au premier abord que Montaigne reprend la pensée d'Épicure. Alors, qu'est-ce que pense Épicure ? Épicure pense que, tant que nous sommes en vie, profitons de la vie car nous ne sommes pas morts, et de toute façon, une fois morts, la question de notre mortalité ne se posera plus. Bah écoute, merci bien mon gars, mais cela ne résout en rien mon angoisse. On dirait des aphorismes de gâteau chinois. Quand t'as envie, t'as envie, quand t'es mort, t'es mort. Bah merci. Alors n'y pense pas, et YOLO mon gars, kiffe la vie et fais pas chier.
C'est pas mais... faux.
Voilà, et bah moi je suis là comme
c'est
un
la
con.
La vision de Laurent.
Et bah moi je suis là comme un con à me rouler dans ma couette. Les Grecs et la mort, la bonne vanne. Platon dans le Phédon nous balance la théorie la plus fumeuse de l'histoire de la philosophie. Le philosophe n'a pas peur de la mort, car tout ce qu'il souhaite en réalité, c'est s'affranchir de son corps. En effet, le corps, c'est la partie vulgaire de l'homme. Pourquoi ? Parce que le corps, il veut manger, il veut boire, il veut baiser. Pendant qu'on est en train de déboîter le trululu à Marie, on ne peut pas lui parler du nazisme et du rôle qu'a joué Himmler dans la mise en place de la conférence de 22.
Marie ? J'y crois pas, c'est hyper vulgaire.
Pendant qu'on bouffe une bonne tartiflette...
Justement, c'est ce qu'il était en train de dire.
Vous voulez que je vous le redise ?
Non.
Pendant qu'on bouffe une bonne tartiflette, on ne peut pas arguer à Laurent que la vie, c'est pas vraiment de la merde, vu que grâce à la droite néolibérale européenne, on vit une chouette époque.
Oh ta gueule.
Bah oui, on a la bouche pleine. En réalité, dès que nous pensons, dès que nous philosophons, on se fait crever, pour Platon. La pure rationalité, il y a que ça de vrai. On est déjà tous morts intérieurement pendant les 4 heures de notre bac philo, en réalité. Merci Platon pour tes bons enseignements.
Mais je crois que j'ai jamais aussi vécu intensément que pendant les 4 heures de mon bac de philo.
On pourra en reparler après, mais...
C'est triste, Laurent, s'il te plaît. Ne dis pas ça.
Bon, bref, c'est justement le fait d'y penser et de raisonner à la mort qui me provoque des angoisses. Donc, la mort 1, Platon 0. Puisque, on est bien d'accord que si je pense à la mort, j'oublie pas mon corps puisque je vais mourir. Bref. Et puis quoi ? Ne serions-nous nés que pour penser ? Franchement, est-ce que je me sens vivant quand je disserte sur le sens de la mort en philosophie ? Ai-je moins peur de la mort ? Non. Clairement non. Donc revenons à Montaigne et ses essais. Il dit l'air de rien qu'en réalité ce n'est pas la mort dont nous avons peur. Si on y réfléchit bien, nous savons tous que la mort sera rapide. Une fois passé de l'autre côté, ce sera trop tard pour y penser. Il dit que nous avons peur de la fin, ce moment où nous attendons cette mort. Donc je rejoins ce que nous disions tout à l'heure. Nous redoutons ce moment où nous nous préparons à partir. En réalité, nous redoutons ce moment où, pour des raisons qui nous sont propres, la pensée de la mort nous envahit. Oui, quand on a le cancer, on pense à la mort. Oui, quand on est vieux, on pense à la mort. À partir du moment où on sait qu'on est mortel, on pense à la mort. Dans tous les cas, elle adviendra et nous l'attendrons. Et cette simple pensée peut nous faire souffrir. Nous devons donc peut-être accepter que nous allons mourir. Il faut peut-être donc retourner cette question. Et là, c'est bien, nous retombons sur Laurent. Si la pensée de la mort m'angoisse...
Pas trop violemment, j'espère.
Si la pensée de la mort m'angoisse, peut-être que la pensée d'être en vie m'apaisera. Comment alors la concevoir et la conscientiser, cette idée ? Qu'est-ce qu'être vivant ? Quand est-ce qu'on se sent en vie ? C'est le moment où je me lève pour ouvrir le frigo. Parce que, rappelons, j'étais en train de dormir et j'avais des insomnies. Il est vide. J'ouvre mon placard. Il y a des granolas. Ah, des granolas. J'en mange une bouchée. Je souris. C'est bon, les granolas. Cela a un bon goût de chocolat. Et moi, j'aime le chocolat. Et d'un coup, je me sens un peu en vie en me délectant de cela. Peut-être que, contrairement à ce que dit Platon, notre vie ne peut se dissocier de notre corps. Peut-être qu'être vivant, c'est finalement trouver ce compromis entre le fait que je pense à la mort et qu'en même temps, j'ai envie de bouffer des granolas. Non. Il est clair que je ne suis jamais plus vivant et heureux que dans ces moments où je me fais à manger. Je conçois ma recette, plonge ma viande dans l'eau pour faire mon pot-au-feu, mélange mes légumes. Et quand je le mange, quel sentiment de plénitude d'être en vie. Alors il semblerait que je suis vivant quand mon âme et mon corps se rencontrent. Et c'est là que, sorti de fond de bois, Aristote s'écrie « Mais oui, c'est clair !»
Pourquoi il a un accent comme ça ?
Parce que...
Mais oui, c'est clair.
Parce que c'est Eddie Malou, en fait, Aristote.
Très bien, on a compris.
Dans son Éthique à Nicomaque, ce disciple de Platon explique qu'il est impossible de dissocier l'âme et le corps, et que c'est la conjonction des deux qui constitue l'homme. Il dit que jamais on ne se sent plus en vie que lorsque l'un et l'autre rentrent en adéquation. Alors, pour vous donner un exemple, il dit par exemple, la témérité, c'est l'excès de raison qui nous fait oublier qu'on va mourir. En gros, quand un soldat se montre téméraire, il oublie qu'il est un corps et qu'il peut se faire trancher par quelqu'un d'en face. La lâcheté, c'est le corps qui nous rappelle à notre mortalité et en prenant à défaut notre raison. C'est-à-dire que d'un coup, on se rappelle qu'on est mortel et le corps nous dit « Ne va pas à la guerre, tu vas crever comme une merde. »
Mais il y a mes amis à la gare.
À la guerre.
La guerre, merde, j'ai coupé
depuis
la
tout
gare.
À l'heure, il fait des erreurs de langage et puis j'ose rien dire. Mais...
Donc, et le troisième point, c'est le courage. Et le courage, c'est la conscience de mourir et se raisonner pour à la fois y aller et survivre. C'est-à-dire tu es conscient que tu vas peut-être crever à la guerre, mais en même temps, c'est le fait que tu sais que tu vas peut-être mourir qui fait que tu vas te préserver et en même temps agir de façon intelligente. Il pousse alors le concept lorsque nous rentrons en interaction avec un autre être humain. Lorsque nous partageons, notre corps et notre esprit rentrent en connexion avec l'autre. Alors, nous nous sentons heureux et en vie. Et Aristote dit qu'à ce moment-là, nous faisons l'homme. C'est parce qu'ils sont pas... Alors, attention, c'est le moment... Je vous prie, si j'avais des violons, je mettrais des violons. C'est parce qu'ils sont pas palpables que Laurent, Marine et Marie peuvent rentrer en adéquation avec moi. C'est parce qu'ils sont là, avec moi, que je peux échanger des pensées pertinentes, des blagues idiotes et me délecter de ce délicieux Malibu ananas. Bon, là, c'était plutôt de la lèvre blonde. Hein. C'est parce qu'il m'écoute à cet instant, prêt à réinventer le monde, voire en créer un, rien qu'à nous ce soir, que je me sens présent, voire même vivant. Chassant la mort à coups de rire et d'éclats de pensée, voilà que je souris. Je vous remercie donc, les amis, et je vous prie de partir. Peut-être qu'il est temps pour moi d'aller dormir.
Oh, c'est mignon.
C'est un gros sac. Alors, voilà. Je tiens à préciser que cette émission n'est toujours pas sponsorisée par Granola.
Par contre, j'ai envie de rajouter qu'il faut manger pour vivre. Hein.
Oui, mais arrête.
Ou il faut vivre pour manger, c'est peut-être mieux.
Vivre pour manger, ça me semble être...
plus pertinent.
Ta définition de la vie.
Oui, c'est ça. Ouais. C'était plutôt
ce que tu défendais. Le gras, c'est la vie.
Mais bien sûr que le gras, c'est la vie.
Ça se voit.
Donc dites-moi, est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur cette magnifique chronique qui a été la mienne?
Alors, moi j'ai relevé.
J'ose penser que c'était peut-être la, j'ose penser que c'était peut-être la meilleure, mais voilà.
Mais ça, t'es mégalo, donc c'est normal.
J'ai relevé une citation que je voudrais partager avec vous. Si je pense à la mort, j'oublie pas mon corps. Et j'ai trouvé que ça ferait une merveilleuse devise pour comment dire, une entreprise de pompes suprême, de pompes funèbres.
Pompe funèbre.
Oui, bah, l'heure se fait tardive, écoute, je pars plus bien.
Et c'est vrai que nous sommes à 1h43 d'émission, tu as le droit de fatiguer.
Oui.
Never.
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 J'aime quand tu dis ça, Marine. J'aime parce que... Bon, voilà, allons-y. Dis-moi, Marine.
Putain, non, mais j'avais un truc en tête, je l'ai perdu. J'avais un truc.
C'est à cause des pompes suprêmes, ça.
Non, mais même, c'est, je l'ai perdu entre temps.
Les pompes suprêmes, c'est des Air Jordan.
J'ai pas compris.
Mais je sais, j'avais une putain. Il y avait un truc qui était revenu. Encore une question à poser, mais je ne l'ai plus.
Eh ben, nous allons laisser du temps pour y réfléchir. Marie, dis-moi.
Marie. Moi, j'ai relevé que tu as dit suis-je moins mort si je me mets à penser. Et que tu as répondu non. Je trouve que oui. Je suis moins mort quand je me mets à penser, ouais. Je pense que je pense donc je suis, en fait. Ça revient un peu
alors,
à ça.
Alors.
Ben, c'est en réalité, exactement ce que j'ai dit quand je disais que le moment le plus intense de ma vie, c'était le bac de chimie.
Comme quoi.
En réalité, c'est pas ça. Bien sûr que quand tu penses, t'es en vie. Mais en réalité, je pense que l'expérience de vie... Et alors là, j'avoue que pour une fois, ma chronique me représente terriblement. Parce que j'avoue être totalement aristotélicien en fait dans ma pensée. C'est-à-dire que Aristote dit nous sommes vraiment humains parce que en gros Aristote c'est le disciple de Platon mais il aime pas Platon. C'est même un super chroniqueur, c'est même un super synthétiseur en réalité de la pensée de Platon. Ouais, il fait la synthèse.
Oui, moi je voyais ça aussi, le gars qui joue sur un piano comme ça.
Non,
et c'est marrant.
Indochine n'avait pas
d'Aristote avec lui.
De clavier Aristote. Non, il fait la synthèse. En gros, Aristote replace vachement le vivant dans la pensée. C'est-à-dire que Platon, il pense toujours ça très hors sol. C'est-à-dire la pensée, c'est un truc vachement important dans la pensée, enfin dans l'Athènes, etc. En réalité, Aristote, il dit non, vraiment, c'est le corps et l'esprit. Et c'est jamais indissociable. Et d'ailleurs, dans l'éthique à Nicomaque, c'est en gros, Nicomaque, c'est un de ses amis, et il lui explique pourquoi. En gros, l'éthique à Nicomaque.
J'ai longtemps pensé que c'était une ville.
Mais en gros, l'éthique à Nicomaque, c'est. Pourquoi ça me plaît de parler avec toi, Nicomaque? Pourquoi tu es mon pote? Et pourquoi ça m'enjaille à ce point-là de te parler? Et si tu veux, ouais, je pense que cette idée que nous sommes âme et corps et nous ne sommes qu'un seul...
Non, mais je suis d'accord aussi. Hein.
C'est-à-dire que, bon, rappelons pourquoi Descartes dit « je pense donc je suis », c'est parce qu'il est enfermé chez lui à la lueur d'une bougie et qu'il arrive à penser « je pense donc je suis ». Mais il est tout seul et à vrai dire...
Il n'y a rien qui lui prouve qu'il existe parce qu'il n'y a pas de témoignage qu'il existe, c'est ça que tu veux dire.
Non, c'est pas ça. C'est qu'en réalité, cette pensée-là ne te procure pas de bonheur. Moi, hier soir, j'étais tout seul chez moi. Ok, quand tu es tout seul chez toi, à la lueur d'une bougie, tu écris des chroniques pour Dimanche Dépression, tu te branles un coup et en réalité, tu te sens seul et tu n'es pas heureux. Tu sais que tu existes, mais tu n'es pas heureux et tu ne sais pas que tu es un homme. Et, alors qu'inversement, quand tu es avec quelqu'un, quand tu es chez Eva, quand je suis avec Laurent et que je me retrouve au fin fond du Bertom à disserter sur la vie ou, par exemple, lui faire lire mon journal intime en me demandant est-ce que vraiment je suis une meilleure personne aujourd'hui qu'hier, en réalité, quand Laurent me dit je m'en bats un peu les couilles, mais on va boire un coup et qu'on va se kiffer la vie, etc., d'un coup, je me sens vivant parce qu'il est là et parce qu'il me valorise et parce qu'en un instant, je le valorise et que oui. Nous vivons un échange. Et c'est ça. Tu te sens vivant parce que d'un coup, tu donnes une...
Ceci dit, il n'y a pas eu beaucoup de transition entre le moment où tu parles de la branlette et le moment où tu parles de moi.
Peut-être un signe.
Non mais on le sait tous, hein, les gars, pas besoin de nous le cacher. Hein.
depuis le temps, on peut vous l'avouer, la tuberculose de Laurent n'est pas une vraie tuberculose, c'est simplement qu'il avale avant que j'arrive.
Ah non, j'ai... Ah, c'est moche, ça devient glauque.
J'ai la gorge vachement irritée.
Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'en fait, nous allons...
Oui, et du coup, oui.
Vas-y Marie, je t'écoute.
Tu dis, alors qu'est-ce qui fait qu'être vivant? Alors, être vivant, c'est faire à manger. Enfin, c'est le plaisir de cuisiner, par exemple. Mais du coup, est-ce que ça renvoie juste au plaisir? Parce que de ce que tu as dit, c'est quand même tout ce qui est plaisant, c'est la bouffe. Enfin, tu n'as pas beaucoup parlé de bouffe. Tu n'as pas parlé de la branlette, potentiellement.
Non,
mais du coup, on est dans un registre de plaisir.
Pourquoi? Parce qu'en réalité, la bouffe est un bon moment entre adéquation corps et esprit. C'est-à-dire quand tu fais une recette, tu la conçois, tu la fantasmes limite sur voir j'aime faire un
ça je l'avais parce que ça faisait un long moment que je rêvais de manger des lentilles et quand je les ai fait, je crois que j'ai eu un putain de plaisir de les manger.
Je pense que tu vois, il y a pas forcément d'adéquation entre plaisir et le fait de se sentir vivant. Parce que typiquement, quand il se branle, il ne se sent pas vivant. C'est ce qu'il a dit en substance.
Oui, et ce n'est pas faux, en réalité, parce que c'est
quelque
chose...
S'il est tout seul.
Oui.
C'est tout... Bah oui.
Tout à fait.
Mais si quelqu'un te branle, tu te sens vivant.
Du coup, il n'y a pas d'adéquation entre...
Et je vais vous dire, je pense au type qui est arrivé au bout des 2 heures d'émission et qui en arrive à un moment où on parle branlette et pensée, réflexion et Descartes, tu vois. C'est-à-dire au moment où on associe Montaigne, Descartes et branlette, ça y est, je dis que ce mec-là, il a eu raison de rester jusqu'au bout de l'émission. Je dis que je suis content qu'il soit là. Je lui dis bonjour d'ailleurs.
Je dis bravo.
Et j'espère qu'il s'appelle Maurice. Maurice, bonne soirée, je t'aime.
Bonsoir Maurice.
Voilà.
D'accord. Non, mais très bien. C'était pour avoir cette précision, mais j'ai plus de questions.
Bon, sur ce, nous arrivons à 1h50 d'émission. Nous avons été assez prolixes. En réalité, je pense que ceux qui nous compteront en audio auront plein de coupes partout. Donc, ils seront plutôt à 1h40, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que vous voulez rajouter, parce que nous n'allons pas faire le retour sur l'expérience contrairement à d'habitude, mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la mort que nous aurions oublié et que vous voulez partager?
Non.
Marine.
Je pense qu'il y a des trucs, mais ça reviendra juste que quand je vais penser à un autre truc en travaillant et puis je vais dire, tiens, on aurait dû parler de ça.
Marie.
Non.
Alors, c'est le moment où, en gros, on va en profiter pour conclure et pour ceux qui sont en live et peut-être, peu importe. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le faire dans l'introduction, mais en gros, désormais, on va essayer de faire un retour sur l'émission et donc vous partager nos chroniques sur le Discord. Donc n'hésitez pas à venir en parler avec nous. Nous allons essayer d'être un peu plus dans l'échange avec vous parce qu'on estime qu'aujourd'hui c'était pas top la façon dont notre Discord était organisé, et donc on va essayer justement d'être plus dans le dialogue à chaque retour d'émission parce que nous sommes bien conscients que par exemple nous ne sommes pas dans l'exactitude, etc., etc., et au contraire on aimerait bien dialoguer avec vous.
Je remarquerai que vos collègues n'étaient pas présents aujourd'hui. J'espère qu'il n'est pas malade ou qu'il n'est pas
mort. Ah oui, on l'a pas vu. Tristesse.
Ensuite, nous vous rappelons des simples infos. D'abord, vous pouvez aller liker notre page Noobgang TV, voire Dimanche Dépression, sur Facebook. Nous avons un Twitter.
Un jour, je ferai un logo dessus.
Ah, on a un Twitter, du coup ?
Oui, nous avons un Twitter qui est Noobgang TV. Nous avons bientôt un Instagram qui, à partir de décembre, a priori, sera actif.
Mais non, il est déjà créé. Vous pouvez déjà vous abonner, mais il n'y a pas encore de contenu.
Il n'y a rien dessus. Mais voilà,
ça ne serait tard
de vous abonner, dire qu'on est en train d'envahir les réseaux sociaux.
Oui,
on investit la place.
Un jour, on envahira votre maison aussi.
Ça a l'air tellement creepy quand tu dis ça.
Je crois que c'est le but.
On vous retrouvera.
Et donc, vous pouvez retrouver nos anciens épisodes sur Spotify. Vous tapez juste Dimanche Dépression et hop, vous tombez sur les anciens épisodes de... Dimanche Dépression.
Et vous inquiétez pas, un jour on fera des miniatures mieux que ça. Aussi. Le graphisme est important.
Je suis d'accord avec toi, Marine. Alors, pour finir, parce que malgré tout, moi j'avais...
Les Darwin ?
Non, on n'a plus le temps, malheureusement.
Ah, trop triste. On les fera en off.
On les fera en off ou on les fera peut-être, parce que de toute façon, maintenant, on a le live qui tourne, on peut faire ce qu'on veut, on n'en a rien à glander.
C'est pas Love Story non plus.
Voilà. On voulait quand même remercier très chaudement Victor, je sais pas s'il nous regarde encore, mais pour avoir...
Non, je crois qu'il était dodo.
Oui, bah non. Tant pis, mais c'est pas grave, je voulais le remercier.
T'imagines, il était tué dans le tram. Oh, non.
Je voulais en tout cas le remercier très fort pour avoir remplacé au pied levé Luc, qui n'est pas là ce soir, mais voilà, on passe à lui et à Victor qui a dû repartir malgré le fait qu'il a lancé le live. Dernière chose, mais dernière chose et non des moindres. Je voulais vous remercier tous les trois.
Et toi ?
Tous les trois. Très chaudement. Donc, on va faire plutôt les feeds. Ça y est. Marie, Marine. Maintenant, on va. C'est limite un jeu de mots. Enfin, toi, faut...
Marie, Marine.
Ah, bah oui, il y a un de plus.
Et Laurent, d'avoir été là ce soir. Je vous remercie très chaudement. C'était toujours, comme d'habitude, un plaisir de faire cette émission avec vous. D'ailleurs, cette émission a été conçue avec vous et dans le plaisir de ça. Nous avons parlé de la mort ce soir, mais en réalité, il ne faut pas oublier que cette émission, elle est lors d'une soirée un peu dépressionnaire un dimanche. Et on s'est dit, si on faisait un truc différent, faisons quelque chose de positif. Bref, je vous aime beaucoup. Et ce n'est pas l'alcool qui parle, c'est je suis content de vous voir chaque dimanche soir
c'est beau,
et de partager
avec vous. Trop d'émotions pour un dimanche.
J'espère que tu ne penses pas trop à nous quand tu te masturbes.
Bah, il pense surtout à toi, Laurent, je crois.
Je veux pas savoir. Je suis voilà. Trop jeune pour ça.
Donc, on va lancer la chanson de fin. Voilà. Donc, je renouvelle le fait que j'étais très heureux d'être avec vous ce soir. Bonne soirée à tous et à tout de suite pour le live. À tout de suite pour le live. Je lance la chanson de fin. Vous verrez un léger clin d'œil dans cette chanson de fin.
Quoi ?
Tu sais pas quelle est la chanson de la fin, Marine ?
Ah, je sais pas, il y a eu tellement de chansons que je ne sais pas quand elle est...
Cette chanson de fin a été décidée par Laurent. Bisous à tous.
Je pourrais pas la chanter alors.
Oh, si tu pourras la chanter.
Vraiment ?
Oui. Bonne soirée à tous et à bientôt. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Oh, now go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not.
Faire tout en même temps.
I will survive. 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 I will survive
will survive. I'm not losing. No, 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 no. I've got all my love to give. I will survive. I will survive.